Alien et les garçons. Épisode 70. Bienvenue dans trois mondes meilleurs.
Bonjour et bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 70, un contron pour finir la saison.
C'est vrai.
Si c'est pas du professionnalisme, j'y connais rien. En direct du bunker, retour au bunker, c'est le deuxième épisode, troisième au bunker, mais cette fois on est sur la terrasse du
sur
bunker.
Sur le rooftop du bunker.
Est-ce qu'on peut dire rooftop dire. Ouais, on va dire ça
on
pour
va dire
faire,
ça,
pour faire rêver les gens.
Exactement.
Très bien, merci, ça c'est le serveur qui m'a apporté du champagne. Merci monsieur. Nous sommes donc en extérieur pour la première fois depuis le temps qu'on voulait le faire.
On c'est la première fois.
C'est la première fois.
Bah ouais, parce qu'en fait on a essayé moult fois et à chaque fois il pleut.
Ah oui,
d'ailleurs
c'est
ce qui va se passer tout à l'heure aussi, c'est pour ça qu'on est sur la terrasse et non pas directement dans un parc. Mais bon,
on est un lendemain de canicule.
Ouais, tout à fait.
Et les lendemains de canicule, c'est bien connu.
C'est orageux.
C'est orageux. Il fait.
Mais le dernier épisode était déjà orageux. Moi je pense
que c'est nous l'orage.
Exactement.
Est-ce qu'on est Zeus ?
On induit l'orage.
Ouais. Tout à fait, ça évidemment.
Pas mal.
On induit l'orage.
Jésus.
Jésus.
Rapport au dernier épisode.
Ceux
pour
qui
les plus grands fans.
Savent, évidemment. Est-ce qu'on fait un bilan de la quatrième saison ou pas ? Est-ce qu'on a fini quatre saisons ?
C'était la quatrième.
C'était la quatrième.
Putain, j'aurais dit que c'était la troisième.
Peut-être que je me suis trompé.
Non,
je crois que c'est la quatrième.
La quatrième saison, mon bilan, c'est un peu moins bien, mais ça reste pas mal.
Nous ?
Ouais.
Combien d'étoiles tu nous mets ?
En tant qu'auditeur, tu veux dire ? Si t'étais un potentiel auditeur ?
Si j'étais un potentiel auditeur, alors j'écoute pas tout ce qu'on fait. Mais
la violence.
Non, c'est pas clair. Ça, mais il y avait une première saison un petit peu foutraque, bordélique. Deuxième saison, on se lance, on est pas mal. Troisième saison, on est au top. Quatrième,
non, pour moi, la meilleure saison, c'est la deuxième. Oui, pour moi, c'est le pic d'Alien et les garçons, la deuxième saison.
Fin deuxième, début troisième.
Pour
et
moi,
après,
le pic, c'est les 2-3 épisodes qu'on n'a pas diffusés au début. Là. Créons le mystère, On les a enterrés dans un désert dans le Mexique.
On a vraiment fait des pilotes qu'on n'a pas diffusés pour le coup.
On a fait deux, je crois, ou trois.
Deux pilotes, je crois. Ouais.
Avec des chroniques, du coup, on a jamais.
Par contre, dont on a discuté la dernière fois et qu'on se rappelle, elles étaient très
nulles.
Non, mais c'était autre chose.
C'était un peu cosmique.
C'était autre chose. Peut-être qu'un jour, on fera hors série Alien et les garçons avant Alien et les garçons.
Les archives.
Les archives.
Pas ça là,
c'est drôle.
Ça serait bien. Vous entendez peut-être des enfants, du vent, des oiseaux, des voitures qui rentrent dans des garages, c'est normal.
Mais c'est pas plus mal. Tu sais quoi, c'est l'ASMR. Il faut pas voir ça comme du bruit ambiant et gênant pour les
champêtre.
C'est plutôt de l'ASMR.
C'est champêtre par les 19e quoi.
C'est ça.
Sympa. Un bilan, Florian, toi, cette saison
Cette saison était à la fois longue et à la fois courte parce que forcément, du coup, passage à un épisode par mois.
Mais c'était la bonne réponse.
Ouais, je pense aussi. Et puis c'est sympa, on aime bien. Ça fait un rendez-vous au moins. C'est quand même un peu plus pro, un peu plus quali, carré en tout cas que toutes les trois semaines.
Après toutes les trois semaines,
il
y avait ce côté foutra qui collait bien à notre personnalité aussi. Je
c'est
trouve.
Vrai.
On
c'est
va
vrai.
Rester quand même sur un par mois qui est effectivement pas mal. Et puis même nous, ça nous permet de nous reposer un peu, de faire des enfants.
Puis même un par mois, c'est plus un mois écart, un mois et demi.
Oui, c'est
parfois.
Un mois d'écart.
Donc,
non,
bon.
Pas vraiment. Je crois qu'on est plutôt.
Non, on est pas mal.
On est franchement
pas mal.
Comparé surtout pour les autres podcasts.
Toi, tu dis qu'on n'est pas à l'heure, ponctuel. Alors qu'est-ce que tu vas dire, toi?
Moi, je trouve qu'on est au max.
Toi, tu trouves que c'est le top. Tu trouves que les épisodes de la saison 4 étaient les meilleurs?
On est moins déglingos, mais on est plus pro et plus. Non, je trouve que c'est pas mal. On a atteint un plateau là qui est pas mal. Je trouve. Je suis d'accord que la saison 3 était très bonne, mais je pense qu'on est sur le plateau de la saison 3. Et je pense que la saison 5. Ouais, dans les étoiles.
Ah bah, ouais.
Parce que j'ai. Enfin, vous allez voir, j'ai des idées. J'ai des idées pour la saison 5, vous verrez.
Moi, j'ai une idée spéciale en tête, j'aimerais bien faire ça, mais je vous en ai déjà parlé, j'aimerais bien qu'on le fasse.
De quoi ?
Allez, enregistrer dans un truc pour regarder l'espace.
Non, mais vous savez quoi ? On va spoiler. Mais
une comédie musicale.
Non, alors ça c'est une chronique que j'essaie d'écrire depuis déjà maintenant 2 ans. Une chronique comédie musicale, c'est extrêmement difficile. Et pourtant, je pars avec des bonnes bases parce que j'ai moi-même à la maison.
Je connais bien Patrick Fury.
Parce que j'ai mon ex, c'est Eli Chouraki.
Non, mais parce que j'ai effectivement ma compagne à la maison qui est fan de comédie musicale et du coup, je la mets en ghostwriter, tu vois.
Ouais.
Mais c'est vraiment très compliqué d'écrire. Et surtout, d'intégrer dans un concept. Donc, ça, c'est assez compliqué. Non. J'aimerais bien faire un spécial horreur. Dans une forêt, autour d'un feu de bois. Moi, j'adorerais qu'on le fasse.
Le problème, c'est qu'Halloween, ça tombe pendant les Utopiales. Donc, en fait, chaque année, on va aux Utopiales et on va pas faire le spécial horreur à la place. On va faire un spécial horreur aux Utopiales.
Après, est-ce qu'on est obligé de faire un spécial horreur le soir d'Halloween ? Est-ce que c'est vraiment nous ?
Non, on doit le faire à Pâques.
Ou à Noël.
C'est pas
drôle.
Non, c'est vrai qu'on pourrait faire un spécial horreur, ça serait pas mal. Mais après, c'est-à-dire qu'il faut organiser un week-end et tout, vous nous connaissez, les amis.
C'est jouable.
On va faire ça. Au pire du pire, on le fera dans les bouts de chaumont.
Alors, du coup, pour toi, on est sur un plateau et voilà, c'est ça.
Moi, je nous mets 5 étoiles sur 5.
Ah oui, sur 5 étoiles sur iTunes, 5 étoiles sur YouTube.
Ouais. Sur iTunes, d'ailleurs, on est plus à 5 sur 5, on est à 4,9. Parce qu'il y a des personnes qui ont mis des moins bonnes notes.
Ouais,
on les aime bien quand même. Non, mais surtout que ça rend tout
ça
plus crédible.
Ouais.
Exactement. Sinon, ça fait genre, c'est les copains qui ont mis le truc. Enfin, quoi qu'on en a beaucoup, mais bon, bref. Ça va être un très très long épisode. Je mets ma pièce, ça sera le plus long de tout Alien et les garçons, je pense. Parce qu'on a des recommandations à la fin, on a des chroniques longues. Là, on est en train de faire un bilan et tout. Moi, je mets ma pièce.
Est-ce que pour le dernier épisode de la saison, Thomas, tu nous as pas sorti un petit portrait chinois des Glingos de derrière les oesophages?
Bah, je sens qu'il a plein de surprises.
Pas du tout, zéro surprise. Hein.
Mais si, t'as des surprises. Tu nous as dit j'ai plein d'idées pour la saison 5.
Ouais, on est saison 4 là.
Oui, mais tu vas pas les dire?
Bah non.
En live?
Bah non.
Ok.
Non, certainement bon, pas. Bah, non, il faut revenir. Non. Désolé.
Il faut croquer un petit peu.
Pas du tout. Déjà, on sait même pas ce qu'on fait cet été déjà, donc on en parlera plus tard. On revient à notre épisode de 70 parce qu'on a parlé de notre vie là. Règles du jeu, c'était le thème, on est d'accord. Merci à notre auditrice, je crois.
Auditrice.
Non, Maëma. Peut-être que son nom c'est Alice, je sais pas. Mais en tout cas, c'est elle qui nous a, ou lui, Yel, qui nous a donné ce thème fantastique, règles du jeu, que j'ai beaucoup aimé. Et Florian était sous l'emprise du contrainte, malgré le fait qu'on ne l'ait pas donné au dernier épisode, c'est parce qu'on a oublié. Et c'est marrant, j'étais en train de dire qu'on était devenu pro et tout, mais bon, bref. Du coup, on se l'est donné sur le Slack en cachette. Comme vous ne le savez pas, à moins que vous nous espionnez, ce compte-là, c'est vraiment pas cool de votre part.
C'est moche.
Ouais. Vous voyez des trucs passer, vraiment.
C'est clair.
Et donc, Florian, quelle était ton contrainte?
Mon contrainte, c'était 10e siècle. Voilà.
Il fallait que ça se déroule au 10e siècle.
Tu m'as juste dit 10e siècle.
Ah ouais, j'ai fait, ok. J'avais pas le temps.
À tel point que du coup, j'ai tellement respecté le contrainte que j'ai inclus.
Je parle en vieux français.
Non, mais j'ai inclus j'ai inclus mon thème règle du jeu à la toute fin. Parce que j'étais là en train d'écrire et tout. Et juste avant d'enregistrer, je fais. Merde, il n'y a rien en fait sur règles du jeu.
Bon, joue aux cartes, c'est quoi les règles?
Non, mais le concept est arrivé sur la base du thème règles du jeu, mais le contrainte a toujours été dans ma tête, c'est la base de ma chronique, le contrainte. Et après, du coup, j'ai inclus règles du jeu, et au fur et à mesure que j'écrivais, je l'ai complètement perdu. Donc je l'ai réintégré à la fin.
Finalement, rien que le fait de suivre la règle du contrainte te fait déjà un peu respecter les.
Mais c'est terrible ces voitures, que fou Hidalgo.
Citroën C4 Picasso.
Ouais. Immatriculé EM900. Et je t'ai coupé, Vicky, pardon.
Non, je disais que finalement, en respectant le contrainte, tu respectais également le thème, puisque tu respectais.
Les règles du jeu.
Ah, yes. Et voilà,
c'était une petite pirouette scénaristique.
Que dans la saison 4, vous avez genre de petits biscuits qu'on vous donne comme ça, des petits bonbons à sucer comme ça, des petits bonbons à la viande. Alors, de quoi parlent vos chroniques? J'avais noté dans mon conducteur et je vais te demander à toi, Florian, qu'on parlait de ta chronique.
Eh ben, c'est l'histoire d'un aubergiste qui a soif d'aventure.
Ah, oh, ça sent le Donjon et Dragon.
Même pas.
Tant pis. Moi, ça me renvoie directement à des G2D.
T'as déjà fait une chronique en plus Donjon et Dragon, je crois.
C'était. Non, je crois pas. J'ai fait MMORPG.
Ah, quoi, c'est vrai.
Peut-être, je sais plus. On s'en tape. On s'en branle. On sait plus, c'était il y a longtemps. Vic,
oui,
de quoi parle ta chronique?
Bah alors, chronique. Ma chronique parle, c'est un texte qui est à la fois le texte en lui-même et les règles pour pouvoir réécrire ce texte pour les futurs gens qui aimeraient l'écrire.
Ah, j'ai rien compris, mais ça a l'air trop bien.
Voilà, et donc du coup, au début, j'avais une idée et par rapport aux règles du jeu, forcément le thème. Et donc je l'ai écrit, c'est parti complètement en couille et maintenant je ne comprends moi-même plus ma chronique.
Ah, donc en fait,
en la réécoutant, je me suis dit, personne ne va rien comprendre.
D'accord. Enfin, donc, mais comme d'habitude, bon, finalement.
Ouais, peut-être.
Mais on fera tous les trois l'effort d'essayer de comprendre ta chronique.
C'est ça, la chronique de Vic sera la deuxième, donc si vous voulez la passer directement, n'hésitez pas. Vous avez le timing dans la description de l'épisode.
N'hésitez pas à la passer, je suis pas sûr.
Moi j'aurais voulu, j'ai oublié de vous dire, j'aurais bien voulu pour la saison 5, on donne les titres à chaque fois, je trouve que ça donne des bonnes idées.
Bah, okay. Alors vas-y.
Florian,
moi c'est d'aventure et de houblon.
Ok, ah, très
c'est
bien.
Pas mal. Toi ça va nous faire voyager. Finit par toi ? Non, on commence par toi.
On finit par moi.
C'est bien. Moi ça, elle s'appelle la règle numéro 14.
Très bien. Et moi ça s'appelle l'amicale fatale. C'est une sorte de battle royale mondiale pour ceux qui rejettent la société de consommation.
C'est un reportage, non? Comment ça se passe?
C'est autobiographique.
C'est un mix entre Fight Club et L'Arme Fatale?
C'est un mix entre Fight Club et Génération X, dont je parlais la dernière fois, et beaucoup de choses que j'aime bien, et ma colère adolescente que je porte encore à moi malgré mes bientôt 35 ans, il faut le dire aux auditeurs, je suis un putain de vieillard.
Tu t'es fait plaisir pour le dernier épisode.
Mais je vais vous dire un truc, expliquer, parce que c'est moi qui arrive, j'ai fait un peu comme l'épisode précédent. C'est que j'ai fait les choses que j'avais envie de faire, du coup je suis à 12 minutes, j'ai fait un sound design qui me faisait plaisir, enfin une ambiance sonore pareil. Je suis parti sur le même, c'est complètement différent, mais c'est le même mood, c'est le même, vous comprenez ?
Concept plateau quoi, c'est ton plateau à toi, c'est les chroniques fleuve et
c'est ça, mais c'est
bien sound design.
J'ai parlé petit quand même.
Ah, j'ai parlé très gros moi.
Ah ouais ?
Ah ouais.
C'est pas grave. Vic, t'as parlé petit, toi t'as parlé...
J'ai parlé monotone.
Et j'aimerais quand même qu'on jette deux mots, parce qu'on dit qu'on enregistre à l'extérieur, etc., mais on donne pas les conditions d'enregistrement.
C'est vrai qu'on n'a pas dit que là on est déjà un peu en vacances, hein, parce qu'on enregistre le 19 juin, donc le lendemain de canicule.
Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de discuter de tout et de rien, comme ça.
Toi t'es posé sur un pouf, la table qui
est une chaise,
qui est une chaise,
en fait, une chaise en tech,
qui permet de garder le zoom, les verres de Liptonic, si vous voulez.
Liptonic, c'est vraiment l'été, hein, la Liptonic,
la lustre.
Vic et moi, on est le cul dans un transat, dans une chilienne, comme on dit même. Donc, voilà, et on est sur le balcon, quoi.
Et face à nous, on a un amphithéâtre d'appartement qui pourrait profiter de nous en live.
C'est le bunker. Et peut-être que c'est le premier épisode avec des auditeurs qui nous écoutent. Il y a peut-être des gens au-dessus qui font genre.
Qu'est-ce qu'ils font?
Mais c'est les garçons qui habitent en dessous. Non, mais c'est peut-être des auditeurs.
Ah, c'est très drôle.
Ils sont là, ils vont nous jeter leurs culottes. C'est des
ils vont nous descendre une bouteille de Romanetti sur une ficelle.
Ça serait beau.
D'ailleurs, ça fait partie du fait que ce soit moins des glingos, le fait qu'on soit passé du Romanetti au
Liptonic. C'est vrai.
C'est vrai. C'est aussi parce qu'on enregistre pas mal en journée, peut-être, je sais plus. Je ne sais plus, c'est pas grave.
En vrai, ça
ne
nous arrêtait pas.
Je voudrais terminer cette intro. Pas si long, j'aurais voulu qu'on fasse encore plus éclater le compteur, mais tant pis.
On va
finir sur les rocos. Les rocos de l'été, hein, pour s'occuper en notre absence, parce que voilà, on sera peut-être pas là cet été, ou peut-être qu'on sera là, on sait pas. On a des projets, vous le savez, on n'arrête pas de les teaser, on le fait pas. Même Vic, il est pas au courant.
Si, je suis au courant.
Alors, t'as mal au ventre, t'as envie de chier, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut que tu me regardes comme ça?
Non, je sais pas, je pensais que t'allais justement.
Non, je sais pas, il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on va avoir le temps de le faire, est-ce qu'on va le faire ou pas, machin. Moi, j'aimerais bien que oui, mais on verra. Peut-être qu'on sera là cet été, peut-être pas. Mais à chaque fois, on dit ça. Et
à chaque fois, on est là.
Ouais, on se débrouille. Au pire du pire,
si ce sera pas ça, ce sera autre chose.
Oui, ce sera une heure de fin qui vous dit.
Exactement.
Qui parle de ses vacances. Ce sera une carte postale géante.
Sympa.
Une longue carte postale. Nous avons eu beau temps. Et ensuite, tu
papa, maman.
Très bien. Et je pense qu'on va pouvoir attaquer tout de suite avec l'amicale fatale qui est ma chronique et on se retrouve donc dans 12 minutes.
Peugeot 206.
Tout de suite.
L'amicale fatale.
Combien ça mesure exactement un mur de chambre froide? 50? 60 cm? Allez, avec l'isolation, peut-être un mètre, mais pas beaucoup plus. Mon visage est ratatiné contre la paroi vernie de ma bave, et à seulement un mètre de là, il y a la rue, l'extérieur, la fuite, la liberté, ma survie. C'est fou le pouvoir d'un petit mètre de béton et de matériaux isolants en tout genre. Dans mon dos, les carcasses bovines pendues au plafond par des crochets se balancent comme si elles dansaient. Comme si nous étions en discothèque, comme si tout ceci était une grande fête. Encore plus loin, derrière la pas si épaisse porte métallique de la chambre froide, il y a le type en costume chicos qui me course depuis des jours. On dirait un méchant d'un film James Bond, toujours élégant, même quand il s'agit d'assassiner quelqu'un. Il a l'air bien décidé, tellement décidé qu'il a dégoté un marteau-piqueur dans je ne sais quel chantier là-dehors et qu'il s'est mis à défoncer la porte avec. La porte qui nous sépare lui et moi, et donc qui me sépare aussi moi, de ma propre mort. Je mentirais si je disais que je n'avais pas un tout petit peu mouillé mon pantalon. Je mentirais aussi si je disais que je n'avais jamais voulu en arriver là. Non, au contraire, j'ai tout plaqué pour que ce jour arrive. Pourtant, mon caleçon est trempé de pisse, peut-être même de merde, et je creuse dans le béton avec mes ongles pour essayer de m'échapper, comme si j'étais une petite taupe poursuivie par un fermier avec son fusil de chasse. Je n'ai pas envie de finir en viande froide comme les vaches autour de moi. Je crois que je n'ai vraiment, sincèrement, assurément pas envie de ça. À moins que... Pendant une seconde, je me dis que je devrais peut-être faire une prière. Il y a 24 heures, j'aurais probablement dit que ces bondieuseries, c'était de la connerie. L'opium du peuple, tout ça. Mais là, tout de suite, dans une situation de mort imminente... Faire des études, le plus possible paraît-il. Écoutez ce que ces gens ont à nous enseigner. Accepter la perfusion idéologique pendant 3 à 5 ans. Renoncer à son libre arbitre, au moins en partie. Renoncer à ses rêves, ses idéaux. Adopter une personnalité plus compatible avec ce nouveau paradigme. Trouver un job. Travailler dur pour une augmentation bien méritée, mais surtout pour enrichir un connard. Sourire devant les clients. Rire aux blagues du connard. Sourire encore devant les clients. Pleurer dans les toilettes. Ne pas fracasser le miroir des toilettes. Surtout, ne pas fracasser le miroir des toilettes. Se chercher une passion, ou plutôt une occupation. Le tennis, le jardinage, la clarinette. Quelque chose pour tuer le temps. Tuer le temps, c'est exactement ça. Prendre un chien ou un chat. Peut-être un reptile pour les plus excentriques. l'appeler pépère et recevoir de l'affection contre des croquettes à la viande. S'acheter une voiture, un statut social, des marques, des bijoux, des écrans de plus en plus plats, comme nos vies, de l'électroménager, des livres pour ne jamais les lire, des films pour s'endormir devant, de la nourriture pour se goinfrer et oublier aussitôt, de l'alcool pour boire et oublier aussitôt, des voyages, des cours de méditation, des week-ends sur la côte, des séjours au ski, des formations d'avenir, des offres exceptionnelles sous réserve des stocks disponibles, des médicaments pour dormir. Avoir peur de la solitude, choisir un partenaire, définir un arrangement, laisser s'écouler 30, 40, 50 ans ou plus, parfois y croire, puis plus du tout. Éviter la crise en cours de route, éviter les remises en question. Avoir un enfant, peut-être deux ou trois, perpétuer l'espèce, transmettre ses gènes qui valent tellement la peine d'être transmis. Changer son fond d'écran de téléphone portable, montrer des photos de ses enfants à tout le monde, surtout à ceux qui n'en ont rien à foutre, c'est-à-dire tout le monde, ressentir de la fierté, réaliser au choix qu'on n'a eu qu'à écarter les cuisses ou à se vider ailleurs que dans une capote pour arriver à ce résultat. Non, il n'y a vraiment pas de quoi parader. Rien ne me rend plus triste qu'une naissance. Cette petite chose innocente, jetée dans un monde où tout a été pensé dans les moindres détails pour faire de lui quelqu'un d'ennuyeux, ou peut-être quelqu'un de mal dans sa peau. Je n'y peux rien. Je ressens une certaine méfiance envers ce projet qu'on appelle civilisation. Je ne crois plus en ces promesses coupées au sédatif. 3 ou 4 semaines de vacances à Bandol en août, un HUV en leasing, des soirées télé et quelques dîners pour partager l'ennui de nos contemporains. Surtout, jamais de vagues. Jamais de folie. Posséder un vidéoprojecteur comme objectif de vie. Une soirée à scroller sur son téléphone portable comme idéal. Ça te fait pas rêver et c'est normal. C'est un cauchemar. Mais tout ce petit confort ne nous pousse pas à nous réveiller, alors le cauchemar continue. Sauf qu'un jour, j'en ai eu assez. Pourquoi ? Je ne sais plus. Je me souviens avoir pensé que c'était impossible que tout soit là sous nos yeux, que des milliards d'années d'évolution aient pu nous mener à ça. Il devait y avoir autre chose, une autre réalité derrière la réalité, ou au moins une échappatoire. Alors de rage, j'ai arraché le papier peint de ma chambre à coucher. Un génocide papetier provoqué par une difficulté à gérer ses émotions. Derrière, il n'y avait qu'une autre couche de papier peint posée par les anciens locataires. Et ensuite rien. Rien du tout. Passage à Saint-Maclou pour acheter du papier peint, puis retour à la normale. J'ai dû attendre presque 10 ans pour que quelqu'un me propose une alternative et me prouve que j'avais raison. Que oui, une autre voie était possible et que le CDI et le prêt immobilier n'étaient pas les horizons indépassables de nos sociétés humaines. C'était au pot de départ de François-Xavier du service juridique. Nous étions dans la salle Villanelle, celle avec la moquette bleue et la map monde qui liste les différentes succursales de la compagnie autour du monde. Les jus de fruits avaient été disposés bien comme il faut sur la table au centre de la pièce et nous nous trouvions tout autour, à faire semblant de rire aux blagues du connard de notre service. Il y avait ce type que je n'avais jamais vu et qui, lui, ne riait jamais aux blagues du connard. Il n'arrêtait pas de me regarder et ça me mettait mal à l'aise. Il a fini par s'approcher de moi pour me présenter discrètement une flasque sans dire un mot. Je lui ai dit que, selon le code du travail, il était interdit de consommer de l'alcool au bureau. Il m'a répondu qu'il s'en battait les couilles et qu'il bossait pas ici de toute façon. Il sentait la vodka ou peut-être le gin. Je ne buvais pas à l'époque. Il m'a expliqué qu'il s'arrangeait pour s'incruster à des pots de départ, ouvrez les guillemets, dans le genre, pour se remémorer qu'il avait bien fait de plaquer son job et de changer de vie. « Tu es en reconversion professionnelle ?» je lui ai demandé, et il a pouffé. Il m'a répondu « Tu veux pas que je te tue ?»
Ou que j'essaye du moins ? Enfin, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, hein.
Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'après avoir discuté avec lui pendant 1 heure ou 2, j'ai répondu oui. Il m'a dit qu'il était comme moi, quelqu'un qui s'ennuyait, mais qu'il avait une solution, que je pouvais le rejoindre lui et quelques dizaines de milliers d'autres personnes à travers le monde. Une sorte de club international. Une amicale fatale, il a dit, composée de gens qui ont envie de vivre leur vie intensément, quitte à l'amputer de quelques dizaines d'années. Un jeu mortel derrière la réalité chiante à crever du reste du monde.
Le principe est simple. Il y a les traqueurs et il y a les traqués. Chacun son truc. Il y a des gens qui ont besoin de pulvériser des vies et d'autres qui ont besoin de voir la leur risquer d'être pulvérisée au quotidien. Mais l'objectif final est le même. Mettre fin à l'ennui.
J'ai regardé la map monde immense sur le mur et soudain, j'y ai vu une aire de jeu géante. Derrière les noms des pays, derrière les capitales aux noms exotiques, il y avait désormais une promesse beaucoup plus vibrante que celle d'une éventuelle mutation. Il m'a montré son poignet, autour duquel se trouvait un épais bracelet rouge vif, sur lequel avait été gravée une flèche.
Ça, c'est le bracelet des trackers. Si tu nous rejoins en tant que traqué, tu auras le même, mais avec une petite cible dessus. Ça permet de se reconnaître. Alors, t'as envie de t'amuser ou tu retournes parler mobilité professionnelle avec François Xavier ?
Ça. Mais là, tout de suite, dans une situation de mort imminente, je trouve la chose beaucoup plus séduisante. Alors je commence à balbutier des Ave Allah, des Krishna Jéhovah. Je tente ma chance avec toutes les chapelles. Je frappe à toutes les portes. Ce serait quand même foutrement improbable qu'il y ait un dieu quelque part au-dessus de tout ce merdier, alors autant multiplier les chances. Derrière, le marteau-piqueur fait un boucan monstrueux sur la porte métallique. Clairement, elle est en train de céder et je serai le suivant à me faire dégonder. Je peux même entendre le type en costume gueuler maintenant. Il a l'air en colère. Il faut dire que je lui facilite pas la tâche. Mais c'est le but du jeu, non ? Je me souviens de ce qu'on m'a dit le jour où j'ai signé. La seule règle du jeu, c'est qu'il n'y a pas de règle du jeu. Alors utiliser une chambre froide comme dernier refuge, pourquoi pas ? Ce n'est pas vraiment de l'anti-jeu. J'envisage un instant l'idée de me cacher dans la cage thoracique d'une carcasse ou d'utiliser une cuisse de bœuf comme massue pour assommer mon assaillant, mais je renonce. Il est trop tard. Le type en costume me jette un regard injecté de sang à travers la porte qu'il est en train de transformer en origami. Il tente de l'enjamber, mais sa veste s'accroche et il commence à pester et à recommander à la porte d'aller faire la bête à deux dos avec sa génitrice, comme s'il avait besoin d'être encore plus énervé. Moi, pendant ce temps, je me roule sur moi-même. Je deviens une petite boule d'être humain sanglotant. Je retrouve mon état fœtal originel, retour à l'envoyeur dans l'utérus de maman. Je flotte dans le liquide amniotique de l'existence. Je suis sur la banquette arrière de ma vie, dans une voiture lancée à 280 en direction d'un platane. Un fracas retentit dans la chambre froide, signe que la porte est désormais au sol. Je me retourne et effectivement, le type en costume se tient devant moi, son petit bracelet rouge au poignet. Il reprend son souffle un instant, puis il m'ordonne d'ouvrir la bouche, ce que je fais docilement. Il y insère le burin de son marteau-piqueur qui a un goût de sang désagréable. Je lève mes yeux pleins de larmes en direction du type en costume. On dirait qu'il a la gaule sous son pantalon. Ce mec est vraiment un détraqué. Gentleman, il prend le temps de me dire adieu et de me remercier, puis sans que je n'aie le temps de me questionner sur le pourquoi du comment de remerciement dans cette situation qui s'y prête peu, il actionne son marteau-piqueur. En une fraction de seconde, je deviens feu d'artifice. Ma tête émiettée est désormais dispersée dans toute la pièce, sur les murs, sur les carcasses, sur le type en costume. Je suis mort et pourtant, je n'ai jamais été aussi vivant.
Bien, merci à moi-même.
Eh bien, merci à toi.
Merci à toi, Totem.
Ça va ?
Je vous écoute.
Est-ce que tu avais de la colère en toi à faire ça ?
Est-ce que j'avais de la colère ? Non, mais... Non.
Bah, c'était colère, quand même.
Ah oui,
c'est un bon gros retour des chroniques de Thomas où on se demande... Ça va, Thomas ?
Vous trouvez ?
Est-ce que tu veux qu'on en parle ? Est-ce que tu veux qu'on lance un side project d'Alien et les garçons qui serait
donne,
en fait ta thérapie ?
Non, parce que c'est ça ma thérapie. Mais attendez, mes chroniques dont tu parles, c'était les chroniques très déprimantes. Elle n'est pas du tout déprimante, elle donne envie de vivre, je trouve, au contraire.
C'est vrai, quitte à mourir.
Ouais.
Toi, tu serais traqueur ou traqué ?
Personnellement ?
Ouais.
Je pense que j'aurais dit non, merci monsieur. c'est vraiment très intéressant. J'apprécie l'approche philosophique.
Je vais retourner voir François Xavier.
Moi, je crois que je vais retourner voir François Xavier parce que je comprends l'idée. Mais non, merci.
Non, mais oui, personne
ne serait ni traqueur ni traqué.
C'est compliqué. Je pense que c'est plus compliqué de trouver des traqués que des traqueurs, non ? Quoique.
Bah ouais.
J'ai coupé parce que la chronique était très longue, mais j'avais tout un passage qui t'expliquait qu'au contraire. Ils avaient du mal à trouver des traqueurs.
Ah bon ?
Et qu'ils trouvaient que des traqués parce qu'en fait, c'était pour renvoyer encore une image de cette société qui font que les gens ils détestent tellement, ils se sentent tellement mal, ils ont tellement besoin de vivre des choses, c'est tellement des victimes, tu vois, qu'ils peuvent pas aller tuer des gens, ils ont besoin que quelqu'un vienne leur faire du mal, tu vois. Et j'avais tout un truc qui explique ça, mais.
807 Peugeot.
ça se tient, ouais. C'est pas déconnant du tout.
Non, elle était déjà très très longue, mais effectivement,
tu sais quoi, je la trouve pas si longue que ça.
Non, moi non plus.
Moi, je trouve que c'est un, comme tu dis, c'est un petit bonbon à la viande qui se suçote très bien, moi je trouve personnellement.
Ouais, parce qu'en fait, il y a peut-être parce que les parties sont très différentes et que c'est construit assez d'une manière un peu voilà. enfin on coupe un peu les différentes parties.
Un petit et sandwich coup, scénaristique.
Peut-être.
Narratif, en tout cas, avec une, effectivement une petite partie.
Oui, c'est vrai que c'était un sandwich.
Ah, ça, c'est un sandwich. C'est ouais. Ce serait un kebab, ce serait pas un banh mi, tu vois. Ça, pour moi, c'est un bon kebab, quoi.
Ouais, un bon kebab galette.
Bah, pour la partie viande, du coup, du kebab, donc la partie au milieu, on va dire, ouais. Des deux parties, on reparlera de la musique après. C'est très. Ça m'a fait penser un peu à Edward Norton dans La 25e heure de Spike Lee, ouais, ce qui se fait devant la glace, le discours. Alors, il est plus colère, c'est pas le même.
Marrant,
c'est pas
la même idée. Je pensais que t'aimes parler d'Edward Norton dans Fight Club.
Dans Fight Club plutôt.
Bah non, le discours de. Je sais pas si vous avez
vu la 25e heure.
Non, t'as pas vu, ouais.
Je crois
pas. C'est lui, pareil, il fait un petit. De Spike Lee.
Ah ok, tu l'as déjà dit.
Il fait un petit état des lieux du monde. D'accord. Mais alors lui c'est beaucoup plus hargneux, c'est pas sur l'ennui, c'est plus fin.
Est-ce que c'est pas la même époque un peu, non?
Probablement.
Parce qu'il y a toute une vague, c'est l'époque Génération X, un peu aussi, un peu plus tôt, mais. Ouais, moi j'aime bien ce genre de truc. Je suis un grand ado parce que normalement, quand t'as 17 ans, ton film préféré, normalement, en théorie, c'est Fight Club. Hein.
Ouais.
Bah moi, ça fait encore partie de mes films préférés. Je m'en lasse pas, je l'ai rematé il y a pas très longtemps. Franchement, j'adore à chaque fois.
Bah, il vieillit pas, quoi.
Il vieillit pas, et puis là, il a tellement lancé un mouvement. Après Fight Club, tout le monde avait commencé à faire du Lynch, n'importe quoi.
Et puis j'irai pas, moi je vous le dis.
Attends.
Fincher. Excusez-moi. Lynch nous a créé
c'est David qui nous met en PLS.
C'est compliqué.
Et si on se parlait un peu de musique, cette musique qui est en fond de cette partie débat, qui nous met directement dans une ambiance un peu à la fois étrange mais à la fois reposée.
Et pour le coup, c'est mieux d'avoir mis cette musique pour la partie débat que l'autre musique.
Oui, j'ai pris soin de couper. Ouais. Puis en même temps, le mec était mort, donc il fallait couper.
Ouais.
C'est Bobby McFerrin, vous vous rappelez, dans Don't Worry Be Happy?
C'est maintenant.
Si.
D'accord.
C'est une improvisation qu'il a fait, je sais pas quel endroit.
De 8h53.
Ouais, non, mais pas loin. Et en fait, cette chanson, je l'ai piqué dans. Je sais pas si vous avez vu The Square.
Non.
Oui.
C'est dans The Square.
Ah oui.
En fait. Et super film, parenthèse.
Il vient de regagner une palme,
le mec. Ouais. C'est mérité. C'est bien. Enfin, des comédies qui gagnent des palmes, c'est pas tous les jours et ça fait du bien, quoi.
J'ai pas vu
J'aime bien que tes films gagnent des palmes et des tubas et du matériel de plongée.
Des masques.
Bravo pour cette bouteille d'or.
Bravo pour cette crème solaire d'argent. Et ouais, donc ça, c'est Bobby McFerrin, effectivement. Mais je trouve que ça marche bien. Ouais. Un côté hyper étrange.
Et du coup, ça allait bien, effectivement. Oui, encore bon choix de musique. Le premier groupe que j'aime beaucoup aussi. Girls Band.
Ouais, ils ont changé de nom. Ils s'appellent Gila Band maintenant.
Ah,
ils ont changé de nom parce qu'ils disaient Girls Band, appropriation des femmes, etc. Ils ont une révélation woke et ils ont changé de nom. Ils s'appellent Gila Band.
D'accord, ok.
J'ai découvert ça en écoutant justement.
Très bon groupe.
Ouais, super groupe.
C'est des Anglais, non?
Ils sont britanniques. Ils sont soit irlandais, soit écossais, je crois.
C'est très sympa. Ils sont.
Ouais, c'est très bien. Une bonne énergie, n'est-ce pas?
Et surtout pour marteau piquerer la gueule de type dans les chambres froides.
Tout à fait. Et ils sont irlandais, je viens de checker. Et l'autre groupe, l'autre musique, puisqu'on en est à parler de musique, c'est une instrumentale de Brockhampton, qui est un groupe de rap américain. Et quelqu'un sur YouTube a enlevé le mec qui rappe. Les gars, dès que l'instru, ça marche bien aussi, je trouve.
Effectivement.
Voilà.
Et je me suis demandé à la fin si effectivement mettre un marteau piqueur dans la bouche de quelqu'un, ça ferait ce que tu décris.
Je pense pas.
Tu décris comment? Je sais plus.
Ça explose partout, effectivement. Je pense que je sais pas s'il meurt tout de suite. En tout cas, il meurt dans une atroce souffrance, ça c'est certain.
Oui, je pense.
Effectivement. Ouais, ça doit aller vite quand même.
Si c'est dans la bouche, tu vois, il faut déjà. Je serais tracker.
Toi, tu serais tracker.
Clairement. Mais genre,
il faudrait viser
par le bas comme ça et tout pour bien remonter vers le cerveau, parce que sinon ça marche pas.
C'est difficile, effectivement. C'est une vue d'artiste, hein. Parce que clairement
c'est pas une vue de BTP, c'est sûr.
C'est pas le plus simple et tout, mais il fallait, enfin le concept,
mais c'est bien cette violence,
il fallait que ça se passe dans une chambre froide avec de la viande morte, il fallait qu'il y ait des, il pouvait pas arriver à le frapper, tu vois.
Et puis j'aime bien effectivement le côté très très brutal, très très boucherie, tu vois, du marteau piqueur, contrairement à je sais plus. No Country for Old Man, je crois, où
il tue avec des. Ah, c'est génial.
Avec un truc sous pression.
Air comprimé, là.
C'est fascinant, ça.
C'est génial, super.
C'est beaucoup plus subtil et moins boucherie, mais le résultat est le même.
Ouais. Pour le coup, tiens, c'est peut-être le seul truc où, sur ton tracker, donc celui qui tue le héros, j'aime bien le fait qu'il le remercie avant.
Parce que ça fait partie d'une espèce de.
Ouais. Donc ça c'est sympa. Par contre, du coup, à un moment donné, il est quand même un peu furieux. Tu dis, quand il n'a pas encore.
Il a la gaule.
Oui, il a la gaule. Il n'a pas encore réussi à percer la porte de la chambre froide. Je le voyais bien calme et cordial, ce mec, tu vois.
Il aurait pu être comme ça, ouais. Vrai, effectivement. Tu sais, un peu content de jouer aux cartes, jouer au paintball avec les copains.
Donc, et mon marteau piqueur. Ouais.
Il fallait que les émotions soient exacerbées aussi, ouais. Montrer l'ennui versus etc. Mais effectivement, il aurait pu être comme ça. Mais il y avait tout un humblement. Tu pourrais faire plusieurs épisodes de ça. C'est une sorte de battle. Je disais, c'est une sorte de battle royale mondiale, en fait. C'est ça qui me plaisait aussi beaucoup. C'était le. Je fais des digressions déjà, mais j'aime bien imaginer qu'il y ait des jeux. Derrière la réalité, il y a déjà des jeux comme ça qui ont lieu. Vous savez, dans Paris ou dans des grandes villes, il y a des mecs qui font des chasses au trésor, des machins et tout. Ouais, tout à fait. J'aime bien l'idée d'un truc complètement dangereux et fou. Et au niveau mondial, les gens se connaissent, ils se regardent, ils savent, un peu comme dans Fight Club.
Tu as dû avoir des choses comme ça, ou peut-être tu as des choses comme ça en ce moment.
Ça s'appelle la franc-maçonnerie. Non, mais il y a peut-être. Après, je pense des gens qui se tuent peut-être pas, mais des trucs qui vont plus loin, c'est tout à fait possible.
Ouais, et je reviens à ce que tu disais justement.
Il y a pas mal d'œuvres là-dessus qui sont très. Enfin, c'est toujours très chouette, pardon.
Je reviens sur ce que tu disais sur un type justement qui serait froid, placide, etc. Je suis d'accord avec Thomas, je pense qu'il fallait exacerber les sentiments. Par contre, j'aimerais la chronique du type qui fait ça déjà depuis 10 années et qui se lasse, tu vois, malgré tout, quoi.
Dans Battle Royale, mine de rien. T'as tout le monde qui est un peu excité et apeuré.
Tu parles du film là.
Ouais, du film ou même le lit ou dans le bouquin ou dans les mangas.
J'ai pas lu le bouquin.
T'as pas lu. Mais il y en a un qui est comme ça justement. Qui est très calme, très.
C'est celui qui serait inscrit là.
Oui, celui qui serait inscrit.
Un des deux qui serait inscrit. Il y en a deux qui seraient inscrits, je crois.
Tout à fait.
Ouais, bah pourquoi pas. Après, c'est très japonais aussi. Il y a toujours un méchant très calme, tu vois, un peu ténébreux. Quel véhicule ?
Toyota Corolla, je dirais.
Ah,
non.
C'est un taxi.
Un taxi, il y a des taxis qui viennent dans mon garage.
Peugeot 200, quelque chose.
Bref. Et tu disais quoi, Luc?
Non, je disais, par exemple, il y a un film. Alors, je retrouve jamais le nom de ce film, mais je le trouve ultra cool. C'est pareil, c'est une espèce d'organisation mondiale qui cherche les gens qui ont de la chance. Parce qu'ils disent qu'en gros, chaque personne part avec un capital chance. Et du coup, ils chopent des personnes un peu au hasard et ils leur font faire des épreuves. Et typiquement, apparemment, le film n'est pas terrible, mais l'histoire est pas mal. Et il y a une des épreuves où c'est genre, ils bandent les yeux de tout le monde et c'est courir dans la forêt. Tous ceux qui se prennent
Mais c'est coréen, hein?
Oui, c'est un film asiatique.
Mais c'est High Concept.
Oui, c'est concept.
Et on aime bien ça.
Ouais, et ben c'est un petit peu, tu vois, dans cette idée, toi, c'est sur l'ennui, là, c'est sur la chance, mais c'est pas mal les grandes complots mondiaux. Ça rappelle un peu
tout
ça.
C'est cool, puis c'est très high concept. On aime bien ça aussi. Ça se pitch en une seconde. Ouais. Enfin voilà, c'était la dernière fois j'ai pompé 2666 de Bolaño. Là, j'ai pompé Fight Club de Fincher. Donc.
Mais t'as raison.
Mais c'est à ça qu'on reconnaît les vrais artistes.
Non, mais après c'est l'ambiance qui me plaisait de faire ça. C'est l'ambiance qui me plaisait de faire et voilà, respectez-moi quoi. On est tout bon.
Bon, moi c'est de mon côté.
J'espère que.
Donc, c'est le moment où vous pouvez sauter la chronique de Vic.
Si vous voulez vraiment savoir, parce qu'il y a le time code de la chronique, mais peut-être pas celui de la fin de la chronique, comptez à partir de. Dans 10 secondes, comptez 8 minutes à peu près, et on se retrouve pour le débat.
Ils arriveront au débat, donc ils vont encore moins comprendre.
Mais non, parce que le débat, ça sera bon.
C'est ça qui est méta.
Le débat, on va essayer de comprendre ensemble. Ça. Ok.
Ouais, et moi aussi.
Bon, passons à ta chronique, Vic. Ta chronique incompréhensible, mais on va l'écouter quand même.
La règle numéro 14.
Règle numéro 1. Cette phrase sera toujours considérée comme la première de ce texte, et ce depuis l'écriture de celui-ci par son auteur original, jusqu'à sa lecture, son écoute ou sa réécriture par des tiers. Règle numéro 2. Ce texte respectera le thème des règles du jeu en introduisant une série de règles numérotées, précises et factuelles. Règle numéro 3. Ces règles préciseront les conditions nécessaires à suivre pour l'élaboration de ce texte, si bien qu'en les respectant consciencieusement, un autre auteur que l'auteur original pourra lui-même rédiger ce texte. Règle numéro 4. Ce texte doit donc, à la fois, être considéré comme étant le texte lui-même, mais également comme la notice pour l'écrire. Précision 1 sur la règle numéro 4. Si nécessaire, on peut donc qualifier ce texte de métatexte ou de métahistoire dans le cas où l'on se réfère au fond développé à la règle numéro 6, puis de la règle numéro 10 à la règle numéro 13, plus qu'à la forme développée dans les autres règles. Précision numéro 2 sur la règle numéro 4. Sera reconnu comme étant ce texte tous les textes suivant les règles définies par l'auteur original. La fidélité d'exécution des règles étant le seul critère à suivre pour rédiger ce texte, seuls les textes identiques pourront être identifiés comme étant le texte lui-même. Règle numéro 5. L'histoire développée dans ce texte doit impérativement commencer à la règle numéro 6. Règle numéro 6. Le héros de ce texte s'appelle Balthazar Black. Règle numéro 7. Dans le cas d'un texte lu, la musique doit commencer maintenant. Règle numéro 8. Balthazar Black doit être un personnage mystérieux. Le texte ne doit jamais dévoiler l'enfance de Balthazar Black ou mentionner quelque élément de contexte sur sa vie avant le texte. Précision sur la règle numéro 8. À l'exception de la règle numéro 14, aucun auteur, en aucun cas, ne peut contrevenir à la règle numéro 8. Règle numéro 9. L'aspect physique de Balthazar Black, si nécessaire de le développer, est le suivant. 1m98, 94 kg, brun. Règle numéro 10. L'histoire, en tant que matière, que contenu ou que fond, commence ici. La phrase qui fait débuter l'histoire doit être la suivante. D'aussi loin qu'il parvenait à se souvenir, Balthazar Black ne se rappelait pas s'être posé une seule question au cours de sa vie. Nonobstant le fait qu'elle intervient lors de la 10e règle, cette phrase est introductive et peut donc en théorie être considérée comme l'incipit de ce texte, bien qu'incipit non officiel, puisque pour rappel, la seule version officielle de celui-ci étant la suivante. Règle numéro 1, cette phrase sera toujours considérée comme la première de ce texte, et ce depuis l'écriture de celui-ci par son auteur, jusqu'à sa lecture, son écoute ou sa réécriture par des tiers. Néanmoins, elle permet à l'auteur original, ainsi qu'à tous les futurs auteurs, d'apporter un élément de tension initiale, voire règle numéro 11. Règle numéro 11, chaque auteur de ce texte doit conserver la volonté de l'auteur original d'introduire l'histoire par une contradiction. En effet, et pour rappel, de si loin qu'il parvenait à se souvenir, Balthazar Black ne se rappelait pas s'être posé une seule question au cours de sa vie. En réalité, le fait de chercher dans sa mémoire n'est-il pas déjà une forme de questionnement? Ce qui invaliderait donc le fait pour Balthazar Black de ne jamais s'être posé de questions. Cet incipit non officiel est volontairement contradictoire et doit figurer dans le texte au niveau de la règle numéro 10. Règle numéro 12. Le style de ce texte doit être descriptif, simple, technique, voire monotone. Il est formellement interdit de rendre ce texte littéraire. Il est formellement interdit d'user de figures de style ou de le teinter d'un style rédactionnel autre que celui autorisé par ce corpus de règles et notamment défini par la règle numéro 12. Règle numéro 13. En marchant dans cette rue, perdu dans ses pensées contradictoires, Balthazar Black a une idée. Et s'il contrevenait aux règles ayant toujours régulé sa vie? Et s'il cassait ce destin prédéfini à l'avance par une ou par des personnes qu'il ne connaissait pas, et qui semblaient pourtant influencer sa vie comme si, même lui, n'avait pas son mot à dire? Pour qui ces gens se prenaient-ils à définir des règles pour le faire vivre, ou pas, pour le définir? Des règles qu'il était censé suivre. Et pourquoi lui, Balthazar Black, ne pourrait-il ni se poser de questions, ni y répondre? Pourquoi? Voilà que Balthazar Black décidait de prendre en main ce qu'il n'était pas censé devoir prendre en main un jour. Se poser des questions, écrire ses propres règles, décider de ne pas suivre cette fichue règle 8 qui interdisait purement et sans justification la possibilité de donner des informations sur lui. C'était acté pour Balthazar Black, il écrirait ses propres règles. Règle numéro 14. Cette règle a été rédigée par Balthazar Black lui-même. Elle donne le droit à chaque auteur, à l'exception de l'auteur original, de développer le personnage de Balthazar Black, de lui donner corps et substance, de le nourrir de souvenirs, de qualités et de défauts, d'imperfections et de vie. Chaque auteur peut ainsi faire vivre Balthazar Black comme le héros d'un texte méritant d'être apprécié, plus que la notice de celui-ci. Le héros d'une œuvre, plus que l'outil d'une démarche conceptuelle de soi-disant authenticité. Nouveaux auteurs, lecteurs, chroniqueurs, libérez-vous. Cessez de suivre les règles d'un jeu vil, sordide et médiocre. Écrivez, décrivez, faites vivre Balthazar Black comme bon vous semble. Car c'est ainsi, et c'est seulement ainsi, que vous atteindrez le seul objectif commun à chaque artiste. Porter au monde une œuvre originale et personnelle. Règle numéro 15. La musique s'arrête à la suite de cette phrase. Règle numéro 16. il convient de rappeler à tous, lecteurs et ou auditeurs, que ce corpus de règles a été rédigé par l'auteur original. Il convient de rappeler à tous, lecteurs et ou auditeurs, que ce texte, avant d'être la vie bien fade d'un certain Balthazar Black, est avant tout une expérience de réglementation rédactionnelle, précise et didactique, sans style, multiforme mais unique. Aucune œuvre, autre que l'ensemble des règles, pris comme un tout, ne saura exister en détournant les dites règles. Aucune œuvre ne pourra s'écarter de celle suivant scrupuleusement les règles. Précision sur la règle numéro 16. La règle numéro 14 est déclarée nulle et non avenue, avec effet immédiat, et doit donc être considérée comme n'ayant jamais existé. Règle numéro 17. Balthazar Black ne doit plus être considéré comme le héros de ce texte. Cette phrase doit apparaître juste avant la règle numéro 18 et doit être la dernière à comporter la mention du nom de Balthazar Black. Règle numéro 18. Ce texte doit comporter 20 règles. La musique doit reprendre avant l'avant-dernière règle. Règle numéro 19. L'auteur original du texte ne sera jamais nommé. Les auteurs de ce texte ne seront jamais nommés. Les lecteurs et ou auditeurs de ce texte doivent se préparer à la fin de celui-ci dans la prochaine et la dernière règle. Règle numéro 20. Du haut de ses 10 ans, le jeune Balthazar Black toisait l'avenir avec un petit sourire, à la fois sincère et plein de défiance. Pour lui, c'était certain, on se souviendrait de son nom. Règle numéro 21.
Merci Vic.
De rien, Thomas.
Alors, j'ai beaucoup de choses à dire.
Ah bon ?
J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des fragments de choses à dire, mais j'ai rien construit.
Je vous préviens. Ah oui, mais moi non plus.
Non, mais comme d'habitude.
Mais c'est normal.
On s'en tape. Non, moi j'ai noté. Déjà tentative borgésienne, hein, on peut le dire.
Peut-être.
Quand même.
Oh, bah, un petit peu.
Quand même, on peut le dire. Il y a quelque chose de Borges. D'abord, j'ai cru au début qu'à la fin, tu devais, si tu suivais toutes les règles, tu devais recopier le texte. Oui, il y a un peu de ça au début. Quand tu prends les règles, tu fais. Mais en fait. Pourquoi pas ? Mais il y a un côté intéressant quand même, parce que ça questionne sur. C'est très borgésien, justement, ça questionne sur le texte. Une fois que tu le recopies, il y a un gars dans Borges, je ne sais plus comment s'appelle cette nouvelle, qui réécrit Don Quichotte, mot pour mot, exactement, en se mettant dans le. Sans le recopier, juste en se mettant dans l'état d'esprit de l'auteur de Cervantes à l'époque et tout, en racontant l'histoire, et il le réécrit naturellement, tu vois. Et tu vois, ça pose des questions sur le texte, le fond, la forme, etc., etc. Je me suis dit que c'était ça, mais en fait, c'est pas ça. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué dans ta chronique, parce que moi, j'ai. Je l'avais comprise, en fait je l'ai compris trois fois, mais trois fois différemment. Parce qu'en fait, au moment où tu crois, ok, je vois ce qu'il voulait faire, règle numéro, je sais pas quoi, et tu casses tout, quoi, n'est-ce pas ?
Donc j'ai rien compris. Mais non, mais ce que je disais, moi non plus, hein. En vrai, je suis pas sûr que ça marche trop bien.
Si, c'est intéressant. Justement, je pense que c'est un objet expérimental qui te permet, qui pose des questions et qui fait, qui pousse à la réflexion sur le texte, sur différentes choses. Moi j'ai différentes questions évoquées après avec vous qui viennent de ce texte, donc si, c'est réussi pour moi.
Bien, c'est gentil.
Florian, est-ce que
Florian n'a pas l'air d'accord. Il fait non, c'est vrai, c'était nul.
Non,
c'est...
non, au contraire, j'ai pas trouvé si.
C'est un bel
objet à écouter.
Radiophonique.
Exactement. Podcastophonique. Je le trouve pas si complexe à écouter, non, un peu plus complexe à comprendre peut-être, etc. Moi, j'aime beaucoup le fait d'écrire des règles qui contreviennent à des règles précédentes, etc. Ce que tu fais allègrement sur la fin, ouais. Parce qu'on finit sur règle 21.
Ouais.
Et puis, il cite Balthazar, alors qu'il est plus droit de citer Balthazar.
Exactement. Règle 20, il cite Balthazar. Enfin bref, etc. Et ça continue encore, d'après toi ou pas?
Bah, je pense la fin comme ça, c'est la règle 21 répète. Enfin, le truc est censé avoir 20 règles. Mm-hmm. Le truc est censé suivre les règles. Or, la 20e ne suivant pas le fait que. Enfin, les règles, fait que ça pourrait continuer. Ouais.
Parce que ce qu'on peut essayer de dire pour analyser le truc, c'est qu'il y a un peu trois niveaux, je crois. Il y a le niveau premier qui est au-dessus du texte, qui est les règles, qui sont les règles.
Ouais.
Ensuite, tu as le texte en lui-même.
Ouais.
Qu'on a entendu, qu'on a lu,
l'histoire,
et qui raconte son truc. Et ensuite, t'as l'histoire décrite par ce texte qui comporte elle-même des règles, parce que le personnage se donne des règles.
Ouais.
Donc, à partir de là, on peut commencer à essayer d'analyser le truc, n'est-ce pas ?
En fait ce qui était compliqué, c'est le fait que je voulais effectivement casser les règles. Mais avant même de les avoir écrites, exactement.
Ça qui est compliqué.
Et du coup, c'est compliqué. Donc, j'ai essayé de le jouer au niveau du sound design par le fait que ça tapait pas. quand c'était quelque chose qui n'était pas maîtrisé par pas l'auteur original.
Mmh. Ah, tu vois, on ne mérite pas ta chronique.
Et c'est le coup de la règle 14 où le mec il dit arrêtez de suivre les règles, réécrivez vos trucs, ça sert à rien de suivre les règles et c'est comme ça que vous ferez quelque chose d'original et non pas en le suivant. Ouais. Alors que le mec qui écrit les règles, là où ça tape, dit à la suite bon, on annule cette règle, c'est une œuvre qui est originale en tant que telle si on suit les règles, donc arrêtez d'essayer de pas suivre les règles. Et la 20e et du coup la 21e aussi ne sont pas tapées.
D'accord, j'avoue que j'avais raté cette subtilité.
Oui, mais j'entends.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui peuvent se tirer de ce texte. Enfin, j'ai deux analyses, tu vas me dire laquelle est la bonne, mais vu que tu n'en sais rien, tu vas me dire, tu choisis, je pense. Mais c'est que soit, donc tu avais la première possibilité, au début, on a l'impression que le seul moyen de suivre les règles de ce texte, c'est de recopier le texte. Mm. Ensuite, on se dit, mais en fait, non, il y a moyen de réécrire l'histoire que nous raconte le gars, l'histoire de Balthazar. Mm. En gardant le fond, mais en changeant la forme, en changeant les mots, en changeant etc. Et encore, à la fin, il t'explique, pas de figure de style, pas de machin, etc. Un peu un exercice comme faisait Queneau, là dans son bouquin figure de style, non, exercice de style, qui raconte
80 fois la même, oui, 80 fois le même 80 truc, fois la même histoire, mais écrite différemment.
Exactement. Comme, ouais. Et j'ai cru que c'était ça à un moment donné. Mais en fait, encore après, je me suis dit, non, ça peut pas être ça. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que les règles te disent finalement, non, c'est plus ça. Et j'ai même, à la fin, j'ai même surtout l'impression, vu que tu casses les règles, que chacun peut s'approprier le Balthazar Black et se dire, un peu.
C'est Creative Commons, quoi.
Ouais, exactement. Et exactement ce que je veux dire, j'avais parlé de la fondation SCP qu'on a déjà évoqué ensemble. Oui. J'aime bien l'idée de se dire, on prend ce personnage-là, qui est un personnage littéraire. On fait une autobiographie un peu dans le genre que j'ai fait dans l'épisode précédent, là, avec mon gars dont j'ai oublié le nom, Malevich, là. Et en fait, chacun peut ajouter une page de sa vie, à la fin ça te crée une sorte de légende, un être légendaire qui a tout vécu, etc. Mais tout en gardant des...
On pourrait lancer ça avec nos auditeurs.
En gros, le but de ce espèce de club d'écriture internationale, car nos auditeurs sont partout dans le monde, ça serait de créer la biographie d'un type. C'est ça
pourrait. Ou biographie, ou même l'histoire qui se déroule au fur et à mesure.
C'est dangereux ça, parce que souvent ça peut...
Ça peut être compliqué, mais tu vois par exemple si... Je le fais très très rapidement, mais si tu prends Sliders, passager du réel ou je sais pas quoi,
c'est génial.
Le spécialiste des séries MC des années 90, c'est Florian, et c'est nous qui l'avons. Et les gens se l'arrachent, c'est nous qui l'avons.
C'est clair.
Vu que c'est dans un cadre différent, un spatio-temporel différent, tu pourrais très bien, chacun pourrait très bien écrire une page de cette histoire là, tu vois quoi.
Ouais, mais c'est dans,
même ton personnage, je crois saison 2 ou saison 3, qui est un shapeshifter. Qui change de forme et qui est pourchassé par et qui à la fin en fait c'est le mec qui est auditionné au tribunal. On pourrait très bien avoir une écriture collaborative de ce personnage là. Étant donné qu'il change de forme, mais quoi, de lieu, ça de marcherait planète d'autant tout, ça pas mal,
plus. Putain, c'était Malevich en fait, on aurait dû faire ça avec Malevich.
Ouais, c'est clair.
Parce que Malevich, pour rappel, pour les gens qui sont pas écoulés jusqu'au bout de l'épisode précédent, il change d'identité, de pays, d'activité, de sexe, de plein de choses au fur et à mesure de sa vie, qui est pour le coup, c'est pas de la SF, hein, c'était très très réaliste, mais on pourrait faire un truc un peu comme ça, effectivement. Ouais. Mais c'est intéressant, moi j'aime bien en tout cas l'idée de la fondation SCP, mais version autobiographie d'un être légendaire un peu lointain, tu vois, toujours à la troisième personne, et on sait pas trop de quoi.
Mais du coup, qui est plein de
biographie, mais je veux dire biographie, pardon.
Qui est plein de contradictions, du coup.
Exactement, et
qui s'assuit des règles, mais pas trop aussi, parce que mine de rien.
Ouais. C'est intéressant.
Donc là, vous l'aurez entendu la première fois aujourd'hui dans ce podcast, et peut-être que dans deux ans, ça sortira.
Mais c'est pas, non, mais c'est pas nous qui allons le faire, parce que je veux dire, souvent, nous, on est très forts tous les trois, je pense, pour avoir des super bonnes idées. Ouais, et je le dis sans humilité aucune, mais pour jamais les faire. Et ensuite, par contre, ce qui est toujours agréable dans les dîners, c'est 5 ans après, faire de toute façon, cette idée, je l'avais eue. Oui. Et les gens disent, mais pourquoi tu l'as baffé ? Prends l'heure, et je fais.
Oui, c'est vrai.
Je me mets à pleurer. Généralement, je vais me mettre à 4 pattes sous la douche et je pleure.
Ouais, non, voilà. Mais c'est vrai que ça nous
c'est
arrive.
C'est comme ça que tu finis pour chasser par un mec avec un marteau piqueur.
Exactement, quoi. Tout à fait.
Je comprends.
En tout cas, moi j'ai une dernière chose à dire. La sitar qu'on entend derrière tout du long, ça donne un indice sur l'état psychologique dans lequel tu as écrit cette chronique, peut-être. Je ne sais pas. Ouais,
c'est possible. Je ne répondrai pas à cette question.
Cette fois, tu l'as écrite il y a combien de temps ?
Je l'ai écrite.
Il y a bien 20 minutes là.
À peu près. Non, avant-hier.
Ah, ça va.
Oui.
Un jour de plus que d'habitude.
Absolument.
Une journée entière pour la digérer, quoi.
Non, ouais. Je l'ai fini hier, hein, attention. J'ai commencé hier soir, enfin avant-hier soir, et j'ai fini hier. Non, sinon, c'est juste, je voudrais noter ça. C'est une fausse. Rendre à César, il y a celui qui m'a sans doute inspiré ça, et seul Lewitt, je sais pas comment ça se prononce.
Qu'on a vu aux Utopiales.
Ah. Hein?
Qu'on a vu aux Utopiales.
Ah bon? Non, donc. Mais c'est un artiste contemporain qui fait de l'art conceptuel. Dans le principe est justement de... C'est des peintures qu'il ne peint pas, mais il décrit comment les peindre.
Ah, c'est de l'art conceptuel.
Et c'est de l'art conceptuel, exactement. Et donc, c'est une série, qui est, papier, c'est série ça, des wall drawings, notamment. Et il les fait reproduire par différentes personnes et qui peuvent être qualifiées d'authentiques, justement, si elles ont suivi précisément ces règles. Et je trouve ça intéressant. Et c'est le point de départ de ça, de cette chronique.
Ça s'appelle le capitalisme. C'est-à-dire qu'il a l'idée, il fait faire les autres gens, et c'est lui qui ramasse l'argent.
Et c'est lui qui ramasse l'argent, effectivement.
C'est ça.
Hein. Effectivement. Et ouais, c'est ça.
Bah, c'est ça, je crois. Et puis à la fin, c'est lui qui le prend. Ouais, c'est ça. La propriété privée, c'est le vol.
C'est ça qui est génial avec l'art conceptuel.
Ce n'est pas Florian qui urine, si vous entendez derrière. Florian est avec nous. Prouve-le, Florian, que t'es là.
Bonjour.
C'est juste un enfant qui boit de l'eau en bas.
Oui. Parce que les enfants boivent de l'eau. Un endroit étrange quand même.
Ouais, alors qu'il marche sur une pelouse interdite. Il y a marqué pelouse interdite.
Ouais, mais ça, tout est interdit.
Et là, du coup, ils nous ont regardé parce qu'ils nous ont entendus, mais ils nous voient pas. Et c'est ça qui est génial.
Ah si, moi, ils me voient. Là, ça s'arrête. Là.
C'est vrai.
Désolé. Ils vont. Ouais. Merci pour ta chronique, Vic. Merci aussi pour nous avoir parlé de Sol Lewitt qu'on n'a pas du tout vu aux Utopiales. Effectivement. Est-ce que Florian, tu veux ajouter quelque chose ou Vic, tu veux ajouter quelque chose?
Moi, j'avais une question technique. Comment est-ce que tu as fait pour que la hard stroke du clavier tombe pile poil à la fin de chaque phrase?
Franchement, je m'étais dit, le niveau musique, il est tard, c'était hier, donc c'était hier après-midi, il est tard, je vais mettre un bruit.
C'était tard hier après-midi.
Un humming noise l'espèce de vrombissement là. Et je peux pas laisser que ça, donc je vais mettre. On parle de règles écrites, ça me semble. Et du coup, j'ai téléchargé ça sur YouTube, et tu vois les ta courbe de voix où il y a des blancs, où il n'y a pas des blancs, surtout que moi je coupe tout en plus. Du coup, je me suis dit sur la première fois, j'ai dit tiens, si je coupais à peu près au niveau de la courbe quand je parle, qu'est-ce que ça donne? Et j'ai écouté, j'ai fait ah, ça rend quand même mieux que juste en continu où ça fait. Et du coup, je me suis tapé ça sur 8 minutes 30, c'est long.
C'est
en fait, tu mets ça sur tout le long, et après tu coupes quand il n'y a pas de voix.
Ouais.
C'est chiant.
Mais je comprends.
Ah, mais ça rendait bien.
Mais surtout,
nous.
À chaque fois, ça tombe. Enfin, la hard stroke tombe bien.
Non, mais t'as l'impression. En fait, c'est fait. J'ai coupé.
Oui, surtout ça s'entendait un peu. Quoi.
Ouais, au bout d'un moment, à la fin, je coupais un peu.
À la fin, oui, ça se voit un peu plus. Mais au début, tu t'es fait chier un peu.
Bah ouais, mais peut-être un peu plus. Parce qu'en fait, à la fin du truc de YouTube, là, dans ce truc de keyboard machin, il y a la touche entrée. Et du coup, je l'alignais à peu près par la fin. À peu près.
Franchement, t'aurais été un vrai. T'es pas un vrai, Vic. Mais tu te serais enregistré toi-même en train de le taper en lisant ton texte. Ça aurait été cool. Tu l'aurais retapé. Du coup,
sauf que le truc, c'est que tu tapes moins vite que
c'est pour ça que ça aurait été beaucoup plus long. Donc, l'idée est à chier.
Voilà. Un peu,
Voilà.
Enfin, pas à chier, mais conceptuel.
Ouais, là, c'est ce qu'on dit quand on sait à chier, mais que c'est pas à chier. C'est bien ce qu'on dit. C'est conceptuel, en tout cas.
Voilà.
Merci, Vic.
Merci, Vic.
On va écouter Florian.
Comment
s'appelle ta chronique?
D'aventure et de houblon.
Et pour rappel, sous contrainte, on est donc au 10e siècle.
Par la force des
choses. Vous verrez, j'ai un peu triché.
Super.
Super.
D'aventure et de houblon.
Oyez, oyez, gentes dames et nobles damoiseaux. Installez-vous confortablement sur votre séant et ouvrez vos esgourdes. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Horace, Horace Podelet de son doux sobriquet. Ce bon vieil homme, aubergiste de profession qui avait soif d'aventure. Admirez le tableau. Une bûche qui crépite faiblement dans l'âtre de la cheminée. Un sol en granit poisseux qui retient chacun de vos pas. Et l'odeur âpre du houblon qui se mélange à celle de la sueur et titille vos naseaux. Bienvenue au Cochon Pendu. Cette taverne, ô combien pittoresque, est l'un des derniers vestiges d'une ère prospère lorsque le commerce et le mélange des peuples faisaient la richesse du royaume. Une pépite qui a perdu son lustre d'antan, piétinée par les ambitions égoïstes et belliqueuses des seigneurs de la région. C'est sur une de ces vieilles tables en bois limé, chiffon à la main, la bave au coin des lèvres, que vous trouverez l'homme au trait tiré, en train de faire sa sieste matinale, dans l'attente d'un badaud qui vienne s'imbiber d'alcool. Si certains l'appellent Podelet en raison de son embonpoint, qui lui donne la forme caractéristique d'une petite jarre de ce breuvage crémeux, la vérité se cache ailleurs. Voyez-vous, chère audience, ce qualificatif s'y est plutôt à sa blanche peau qui ne goûte que très rarement à la lumière du soleil, de par derrière le comptoir. Et comme la fine couche ridée qui surmonte ce même liquide lorsqu'il est chauffé, le visage de l'aubergiste est parcouru de centaines de crevasses ciselées par le temps et le dur labeur. Ces lieux ont dévoré son âme et son corps. Il a offert sa vie à celle qui passe le pas de sa porte, leur cuisinant des mets riches et rassasiants et leur offrant un gîte chaleureux et reposant. Pourtant, ce que l'aubergiste a toujours souhaité par-dessus tout, c'est d'être eux, de ceux qui passent, repartent, reviennent ou parfois pas, mais qui consomment toujours sa générosité. Ceux qui sont en quête permanente de sens à leur voyage, que ce soit à travers de glorieux combats sanguinaires ou même d'une tâche rémunérée quelques piécettes. D'être un aventurier, comme ils les appellent tout simplement. Mais à la place, il a hérité de ce fardeau, nommé Cochon Pendu, de son père qui l'a lui-même hérité de son propre père, qui l'a lui-même hérité, enfin vous avez compris. Bien loin de la vocation, beaucoup plus proche d'un cadeau empoisonné, sur le pont, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tirer bière sur bière et nettoyer vomi sur vomi, Horace n'a pas d'enfant, Horace n'a d'ailleurs pas de femme, c'est un homme seul qui déclame à qui veut bien les entendre des contes et histoires épiques qu'il n'a jamais vécues. Tout du moins, lorsqu'il ne dort pas. Allez, debout Horace! Tenez, c'est justement le moment qu'a choisi une gueule saoule pour claquer la planche de bois qui sert d'entrée au taudis. Ni une ni deux, voilà donc que Podelet sort de son semi-coma pour lui souhaiter la bienvenue. « Hola, voyageur !» que dit-il. « Qu'est-ce que je peux bien vous servir ?» Le vagabond titube, avance, trébuche, se relève, engueule une chaise au passage, puis s'assied, 3 mètres après le tavernier, qui l'observe de manière circonspecte. Le regard hagard, le mystérieux client observe le mur d'en face en silence. Horace répète une nouvelle fois. « Hola, voyageur, qu'est-ce que je peux bien vous servir ?» L'homme, âgé d'une 30aine d'années, au bas mot, est vêtu de guenilles sales et trouées. Son visage émacié, surplombé de cheveux longs, tels des tiges désorganisées de ronciers, est couvert d'une poussière noirâtre. Le voyageur n'a visiblement pas goûté les plaisirs d'une bonne rinçade depuis un paquet de semaines. Seul un élément vient perturber ce tableau désolant. Une bourse pleine, attachée au ceinturon, à peine cachée par une cape épaisse. À y regarder de plus près, Horace observe aussi l'ombre d'un objet longiligne équipé d'une courte barre transversale dans le premier quart de sa hauteur. Une épée, très certainement, habilement camouflée. Et pour cause. Ceux qui, parmi vous, très chère audience, se sont déjà promenés sur les chemins terreux de campagne, savent très bien qu'il ne fait guère bon d'avoir l'épée au fourreau, visible et prête à dégainer. Sauf si vous cherchez la bagarre, bien sûr. Une courte analyse complémentaire offre à Podelet le spectacle d'une deuxième arme. Plus courante cette fois-ci, mais toujours à l'abri, sous le voile de tissu. Un arc, et certainement le carquois qui va avec. Dans cette contrée, il n'est pas rare de croiser le chasseur déterminé à manger de la viande au soir. Mais un chasseur armé d'une épée, et la bourse bien remplie, qui plus est, vous m'accorderez l'incongruité de la situation. Le bon vieil Horace Podelet ne se devine pas, et lance son fameux « Ne serait-ce donc pas là un aventurier que je vois de mes yeux ?» Le visiteur, la tête ballante, détourne le regard, attrape une pinte, et la lève sans décrocher un mot, peut-être un son, à peine un grognement. Toujours est-il que le tavernier s'empresse, à son rythme, de servir l'aventurier, mais encore plus, de lui raconter les derniers ragots, les histoires familiales sordides du coin, et les rumeurs les plus tordues, dans l'objectif inavoué de piquer sa curiosité, et par procuration de vivre l'aventure tant convoitée. Mais que nenni, l'homme sous s'enivre, non pas des paroles de son hôte, mais de son houblon qu'il avale en quantité phénoménale. Chaque tirade est coupée par un lever de coude nonchalant et de moins en moins stable, et la cadence s'accélère. L'aventurier ayant posé sa bourse sur le comptoir, laissant à l'aubergiste le soin de prendre une pièce à chaque service. Podelet enchaîne les récits, tantôt embellis, mais toujours aux promesses alléchantes de richesse et de gloire éternelle, à celui qui souhaiterait en devenir le héros, une ambition que ne possède pas le nomade, qui n'a Dieu que pour le fond de son verre. Horace arrive à court d'anecdotes. Il a tiré plus de fils de sa pensée qu'un canut de son métier. La nuit est tombée sur le cochon pendu, depuis plusieurs pintes, et le vagabond semble piquer du nez, à tel point qu'au beau milieu d'une phrase, l'aubergiste n'est non pas coupé par un désormais habituel appel à l'ivresse, mais par le fracas d'un crâne sur le comptoir en chêne. Horace range alors son fidèle chiffon et s'approche tranquillement de son seul et unique client de la journée, qu'il soupçonne évanoui faute d'une trop grande consommation d'alcool. Une aubaine pour le gérant qui va devoir faire glisser cette viande molle jusqu'à une paillasse et lui facturer quelques pièces de plus pour le dérangement. Mais après avoir passé les bras autour de son poitrail, dans l'intention de le tirer jusqu'à une chambre, Horace remarque avec stupeur que l'homme ne semble plus respirer. Il desserre sa prise, qui tombe tel un pantin désarticulé sur le sol en pierre de la taverne. Paniqué, Podelet fait les 100 pas dans l'allée principale du cochon pendu, tantôt fermant le loquet de la boutique ou éteignant les bougies qui parsèment la pièce afin d'éviter tout témoin non désiré. Seul, avec le cadavre, Horace tente de retrouver ses esprits et d'échafauder un plan qui lui permette de se soustraire à toute question dérangeante des soldats impériaux et ainsi, potentiellement, du sort réservé au cochon qui prête son nom à ces lieux. Après mûre réflexion et quelques verres de liqueur pour lui donner du courage, il décide de cacher le corps dans un tonneau, lui-même positionné avec d'autres dans une charrette, de prendre la route direction le fleuve afin de l'y jeter et de le voir disparaître avec le courant. Par les temps qui courent, un cadavre de plus qui s'échoue sur les berges n'est pas un fait particulièrement extraordinaire. Encore moins s'il est accompagné de tout l'attirail du mercenaire moyen. Il s'attelle donc à la tâche, en commençant par réunir méticuleusement toutes les affaires du pauvre homme, en prenant soin d'effacer toute trace de son passage. Alors qu'il lasse la bourse pleine de pièces à son ceinturon d'origine, le vieil homme ne peut s'empêcher de remarquer un carnet, relié en cuir qui dépasse de la poche intérieure de la cape. Piqué par la curiosité, malgré la situation passablement angoissante, il le tire lentement et l'ouvre d'un geste plein d'hésitation et de tremblement. À l'intérieur se trouvent plusieurs missions. Ou oserais-je dire, plusieurs quêtes, griffonnées à la mine de plomb. Toutes sont rédigées avec une écriture linéale impeccable, propre à celle d'un noble éduqué. Certaines sont barrées, laissant penser qu'elles ont déjà été effectuées, mais beaucoup sont restées dans leur état originel. Plusieurs d'entre elles ont même commencé à s'effacer avec le temps.
Défaillance majeure.
Une lueur illumine l'œil vitreux de l'aubergiste, non pas celle d'une bougie, qu'il aurait malencontreusement oublié d'éteindre, mais plutôt une lueur d'excitation. L'étincelle de la folie passagère qui attrape votre âme, la renverse et la secoue dans tous les sens. Celle qui vous pousse à faire des choses insensées, sans précaution des risques et des implications engendrées. Cette lueur, elle pénètre au plus profond de Peaudelet et vient réveiller ce rêve de gosse si secret, enfoui sous plusieurs années de tâches répétitives et laborieuses. Le brave Horace a devant lui le départ rêvé d'une vie pleine d'aventures et d'actions. Il continue sa lecture de la liste de quêtes et en repère une qui semble plus facile que les autres. Un paysan de Verte Colline semble avoir un problème de loup qui s'en prennent régulièrement à son troupeau de moutons. Une tâche qui semble à la portée d'un aventurier débutant. Sous l'effet de l'adrénaline et de l'alcool, Horace se laisse emporter par son excitation et décide de s'y lancer corps et âme. Une idée de génie, selon ses critères, lui vient alors. Âme sensible, cachez vos esgourdes de vos douces mains. Les mots qui vont suivre ne sont pas à mettre dans toutes les oreilles. Vous souhaitez continuer ? Soit, je vous aurais prévenu. Le plan de l'aventuraillon est le suivant. Tout d'abord, il emmènerait le corps sans vie du vagabond qu'il disposerait en toute discrétion au beau milieu de la forêt de Verte Colline, après avoir découpé quelques pièces de choix dans le but d'attirer les animaux sauvages avoisinants. Ce repas de roi attirerait sans l'ombre d'un doute la meute de loups problématiques, à l'affût de viande fraîche et facile. Alors que ces bêtes féroces et sanguinaires se délecteraient du feu voyageur, l'aubergiste armé jusqu'aux dents en profiterait pour décocher quelques flèches bien placées et, par chance, tuer plusieurs individus de la meute. Le reste décamperait et ne reviendrait très certainement pas de sitôt dans la région. D'une pierre deux coups, il deviendrait un héros aux yeux de tous et éviterait l'échafaud par la même occasion. Sans plus attendre, Horace met en branle son plan d'action. Il déshabille le nomade et s'équipe de son nouvel attirail. Il place ensuite le cadavre dans un tonneau de bière vide et le fait rouler jusqu'à la chariote. En l'espace de quelques minutes, le voilà déjà en route, armé d'une torche et de son insouciance. Il ne lui faut que quelques heures pour rejoindre Verte Colline à l'aide de son fidèle cheval de trait. Alors qu'il pénètre la forêt, l'aube commence à poindre à travers les feuilles de printemps. Il continue son chemin pendant quelques minutes à la recherche d'une clairière. Une fois trouvé, il dispose du corps et le place en évidence, tandis qu'il se cache à l'orée des bois, à califourchon sur l'une des premières branches d'un sapin. Il s'arme de son tout nouveau jouet et maladroitement y place une flèche, prête à décocher. Il bande et relâche la corde maintes et maintes fois pour s'habituer à la sensation et se donner du courage. Il attend sur son arbre perché des heures durant à l'affût de la moindre touffe de poils. Son ventre gargouille, ses paupières sont lourdes, mais il lutte de toutes ses forces. Quand tout à coup, un loup apparaît. Puis deux, puis trois. Bientôt, ils sont une dizaine, répartis sur toute la périphérie de la clairière. Ils avancent à pas feutrés, observant à l'entour la trace d'un potentiel danger. Peaudelet retient sa respiration de peur d'être repéré. La meute se rapproche du corps en l'encerclant. Puis le plus gros d'entre eux se jette d'un coup d'un seul sur l'homme inanimé. Mesdames et damoiseaux, je ne vous conterai pas les détails de la boucherie qui s'ensuit. Sachez seulement qu'il n'existe en ces terres plus aucune trace de notre vagabond. Le festin dure plusieurs minutes pendant lesquelles Horace vise de sa flèche tremblante, un à un, les différents loups qui s'affairent. Chaque seconde qui passe semble être des heures pour l'aventuraillon. La sueur dégouline de son visage et embue sa vision d'un voile trouble. Ses bras sont comme tétanisés par la peur. Des dizaines de questions envahissent son esprit, mais il est déjà trop tard. Les loups ont fini leur repas et opèrent déjà un demi-tour en direction des sous-bois. Peaudelet souffle enfin. Mais en relâchant la pression sur ses doigts endoloris, il décoche une flèche qui trace son chemin tout droit sur le nœud d'une branche, rebondit et fait volte-face. Une douleur immense, vibratoire et incandescente frappe Horace. Sans baisser la tête, il passe la main sur son corps de haut en bas. Ses doigts parcourent le tissu avant d'arriver sur une zone humide et de rencontrer l'obstacle d'un bâton en bois surplombé d'une plume, planté dans son genou. Il porte ensuite la main à son champ de vision, cette dernière est couverte de sang. Le corps d'Horace perd instantanément toute vigueur et bascule en arrière, la tête la première. Il gît désormais sur le sol et se vide de son sang. Mais alors que la vie le quitte, un sourire se dessine sur ses lèvres. Car voyez-vous, Horace n'est plus, certes, mais Horace a vécu ce qu'il aura toujours voulu vivre. L'aventure.
Hiver.
Oyez, oyez, gentes dames et nobles damoiseaux. Installez-vous confortablement sur votre séant et ouvrez vos esgourdes. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Horace, Horace Podelet de son douce briquet. Ce bon vieil homme, aubergiste de profession qui avait soif d'aventure.
Mon brave Florian, pour cette histoire somptueuse.
Alors, elle est un peu complexe cette histoire. En fait, il y a vraiment plusieurs trucs en un. J'ai rajouté un peu la notion de règle de jeu après et tout. Oui. Vous voulez que je vous explique en fait quelle était l'idée originelle?
Tu nous laisses découvrir.
Oui, je vous laisse deux guesses chacun.
Je pense que c'était juste, on vient d'assister à une partie d'un RPG et le gars a fini par perdre à la fin. Et il recommence avec un nouveau personnage.
Presque, pas loin.
C'est pas ça?
Pas loin. À vous, Vic.
C'est une sorte de quiz de Florian, putain.
Alors, pour moi, ouais, c'est l'histoire d'un PNJ,
ouais,
qui finalement arrive à devenir lui-même un personnage joueur.
Grâce à un...
Ils sont en train de célébrer.
Ah, ça y est.
Ils sont en train de célébrer la bonne réponse de Vic. C'est effectivement ça. L'idée de base était de faire l'histoire d'un PNJ qui devient le héros d'un jeu vidéo. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que j'ai commencé à l'écrire. J'étais pas très content du style. Et tout à coup, j'ai commencé à écrire de manière un peu.
Ok, c'est pour ça le 24h sur 24 qui m'avait.
Oui,
je comprenais pas pourquoi il disait ça tout le temps.
Qui recommence.
Mais non, justement, le fait que. Moi, c'est la fin que je comprends pas. Du coup.
Parce que du coup le jeu vidéo a réparé en fait cette erreur et propose une nouvelle partie.
Et maintenant c'est Horace le nom du héros. Alors qu'au début,
d'accord,
non, tu changes un peu à la fin, je crois.
Non, même pas. Ah, j'ai vraiment repris le début. En fait, le héros, pour moi, le héros du jeu vidéo, c'est celui qui parle pas. Ouais, c'est celui qui est riche avec une épée. C'est le mec qui meurt. Et du coup, ce qui ne devrait pas arriver de cette manière-là.
Ouais,
et du coup, le jeu vidéo pète un peu un plomb, etc. Et tout. Et c'est Horace qui reprend le livre de quête,
d'accord,
et qui commence à faire sa propre quête, etc. Et sauf qu'il meurt d'une flèche dans le genou. C'était un peu la correction du jeu vidéo sur Horace qui a essayé de briser les règles du jeu.
Qui est sorti de nulle part, un peu. Voilà.
C'est ça.
Deus ex machina, mais logique, puisque le jeu vidéo reprend le dessus sur le.
Est-ce que c'était scripté ou pas?
Alors
ça, c'est un mix de tout.
Probablement pas, non?
Bah peut-être.
Moi j'aime bien l'idée en tout cas que le jeu vidéo, justement, ils disent ok, on remet les règles du jeu à plat et genre.
Parce qu'en fait c'est un bon.
C'est l'alignement des planètes. Maintenant on remet tout à plat. Toi t'es un PNJ, tu retournes dans ton auberge de servir tes bières. Mais c'est rigolo, l'idée du PNJ qui devient un personnage, c'est marrant quoi.
Mais c'est pour ça, et donc il y avait effectivement plein de manières de l'écrire et tout, et la manière dont je l'ai écrit au début était pas forcément, me plaisait pas trop dans le style, donc j'ai vraiment voulu le réécrire un petit peu en mode
vieux François
conte d'un troubadour face à une audience.
Moi je viens de Villeurbanne, hein. Vieux François c'est difficile pour moi, hein. Ah ouais. Des moments j'étais là genre qu'est-ce qu'il dit.
Et ça te va très bien accessoirement, on connaît ton appétence à conter les histoires et les chroniques,
c'est
peu importe dans quel
c'est
univers elles se déroulent, et pourtant, et là je trouve qu'on a trouvé quelque chose où ça permettait d'exprimer pleinement ta jolie manière de raconter les histoires et ton articulation très.
Alors, parfois un peu exagéré.
Parfois un peu exagéré, ouais.
Avec eux, je sais plus.
Ah oui, c'est quoi tu fais. Exactement. Tu fais comme. Il y a un mec dans. Je sais pas si vous regardez Blast sur YouTube.
Non.
Non. Mais, parce qu'il y a un gars qui parle un petit peu comme ça, celui qui faisait la guerre du trône, Serge. Oui. Et il parle un peu comme Florian.
Oui, c'est fait. Oui,
c'est fait.
Oui,
mais bon.
Tout à fait. Bref. Moi, j'avais deux trucs à dire. Donc, effectivement, l'histoire d'un PNJ qui attrape ce journal. Est-ce que, du coup, les PNJ ne sont-ils pas les vrais aventuriers? Et ça va lier avec mon premier point. Mais avant ça, ça me rappelle, je sais pas, parce que je crois que les auditeurs savent qu'on travaille dans la publicité. S'ils le savent pas, ils le savent. Il y a une agence de publicité qui avait réalisé une campagne pour je ne sais plus qui s'appelait My Life as an NPC. Et justement, c'était basé justement sur les vies des PNJ, des jeux vidéo qui se faisaient chier. Et c'était que tu les voyais dans leur vie quotidienne.
Faire
les mêmes choses et justement essayer de s'épanouir et d'avoir un but, un objectif à leur vie là-dedans dans cette campagne qui est assez chouette pour je ne sais plus qui d'ailleurs. Mais bon, bref.
Maintenant, Les Garçons est un podcast de publicité. Voilà. On va vous faire notre veille.
Mais du coup, ça, je trouve que ça, c'est une chouette idée, un chouette concept. Enfin, c'est très cool.
Mais du coup, tu voulais dire autre chose peut-être, mais le temps que tu réfléchisses.
Non, vas-y.
Parce que je te voyais lutter sur ton téléphone. Du coup, en fait, j'ai presque envie de réécouter la chronique. Parce que maintenant qu'à la fin, on comprend que c'est un PNJ et tout ça. Il y avait plein de choses, tu vois, les 24 heures éveillées tout le temps, on comprend mieux. En y repensant, je repense au fait qu'il avait plein d'histoires à raconter et à la fin il en a plus, bah, tu sais, comme, comme si t'avais épuisé les options de dialogue. Je pense que c'était ça que tu voulais dire.
C'est ça, en fait, je pense qu'il y a plein de petites choses. Des petits sound design de jeux vidéo, justement, que j'ai repris à chaque fois qu'il parle, du coup, il y a une. Une petite pop-up de bulle en fait de chat, tu vois quoi. Quand il prend la pièce directement dans la bourse,
tout à fait.
Pareil, le petit sound design, etc. La flèche dans le genou, c'est l'air scroll, bien sûr.
Là où la chronique de Thomas était un bonbon à la viande, toi, c'est plein de daims, c'est un paquet entier de daims que tu dégustes et tu peux. Il y en a beaucoup, quoi. C'est pas un seul bonbon.
On peut picorer.
Voilà.
C'est des mezzés de médiévaux un peu. C'est de l'ours à la bière, c'est des choses comme ça. Et moi, du coup, je vous propose de réécouter la chronique.
Allez, c'est parti.
j'ai parié que ça allait être l'épisode le plus long. Je vous promets que ça va être le plus long. Je vais réécouter ta chronique. Voilà. Allez.
Avec le commentaire de l'auteur.
Merci beaucoup. On n'a jamais fait ça.
Alors là, j'ai voulu. Alors là, vous allez voir, je vais louper la virgule. non, c'était vraiment.
Double travail en fait de faire ça. Ouais. J'adore le concept de faire le commentaire pour une chronique. Je crois qu'on a eu un thème autobiographie, non
c'est pas je crois surtout que dans une chronique, tu l'avais fait où tu parlais, mais c'était enregistré. Enfin, tu t'étais enregistré par-dessus toi. C'était, tu te traduisais où tu es là, le réalisateur, et tu parles en anglais derrière. T'avais pas fait un truc comme ça C'était très drôle.
C'était drôle ça aussi.
C'était très drôle. Non, moi je m'étais noté un autre truc en fait, parce qu'au début donc moi j'avais pas non plus l'idée que ce soit un PNJ jusqu'à vraiment ce qu'il trouve le journal dans la poche du type, mais par contre du coup au début à un moment tu dis qu'Horace il est jaloux de enfin il aimerait vivre ces aventures là justement, il se fait chier, etc.
il voudrait être PJ
et donc ça me faisait penser à des trucs. Je me disais en fait l'auberge que t'as créée, c'est un peu, on en a parlé aussi déjà à l'époque, mais c'est un peu un liminal space, tu sais, c'est genre un endroit de transition, de passage, et du coup il se passe quand même des choses là-dedans et c'est intéressant. Et après je me suis dit, est-ce que c'est pas, en fait c'est un truc un petit peu, je me demande si tu y as pensé en l'écrivant ou justement quand tu décris cette espèce de jalousie, est-ce que c'est pas parce qu'on raconte une aventure que ça en devient une aventure? Est-ce que l'aventure n'est pas autant créée en gros par celui qui la raconte que quelqu'un avec une aventure que par celui qui la vit vraiment? Parce que finalement,
est-ce qu'il n'y a pas besoin même de la raconter pour que ce soit une aventure?
Est-ce qu'il n'y a pas besoin de la raconter pour que ce soit une aventure? Parce que finalement, un aventurier, c'est juste quelqu'un qui se déplace à plusieurs endroits. Mais finalement, à chaque endroit, bah, y a des personnages ici. Donc on pourrait considérer qu'ils vivent des aventures avec eux. Du coup, je trouve que c'est une question qui est ultra intéressante. Pareil, le JDR, finalement, ce qui crée l'aventure, bah, c'est le fait de la raconter. Donc est-ce que l'important c'est vraiment le fait de la vivre ou le fait de la raconter? C'est une question que je me suis posée en t'écoutant et en me rappelant aussi un passage. Je sais pas si vous avez vu la série The Young Pope, mais il dit un truc intéressant quand il voit des touristes dans le Vatican. C'est un jeune pape et il les regarde comme ça à travers une espèce de meurtrière un peu cachée, et il dit le problème avec les gens de passage, c'est qu'ils ne font que passer justement, et du coup ils profitent pas du enfin ils ne comprennent pas vraiment le lieu et ils peuvent pas vraiment profiter, je sais un peu plus profond que ça,
mais comprendre le lieu voilà. Appréhender vraiment quoi.
Et du coup en fait les aventuriers ne sont-ils pas en fait ultra chiants et que c'est pas ceux qui racontent ces aventures? Est-ce que c'est pas finalement le vieux qui est là au début quand tu le racontes, qui est dans son truc, il a une épée machin, et en fait Horace il le considère comme un aventurier, ça lui donne de l'intérêt. Si ça se trouve ce mec là c'est juste un vieux, bon en l'occurrence il a un journal de quête et la suite de l'histoire fait que non c'est un vrai aventurier, mais c'était un moment je croyais vers là que tu voulais en venir.
Mais moi ce que j'aimais bien aussi dans la construction de cet aventurier, c'était que ça c'est bien sûr pas raconté et je trouvais pas qu'il y avait forcément beaucoup d'intérêt à le raconter dans cette chronique, mais c'est qu'il était blasé, tu vois.
Ouais.
Il y a plein de quêtes qui sont pas cochées, le mec il passe son temps à se bourrer la gueule, il est pas là vraiment à vivre l'aventure
il
avec un grand.
Il profite pas de la chance d'être un
peu. Il a pas envie d'aller se faire des loups, il a tué ça pendant les 3 dernières heures.
Exactement, donc du coup qui était aussi d'ailleurs un marqueur du jeu vidéo quoi, la énième quête de loup etc. Quoi. Donc il y a un petit peu de ce que tu racontes.
Les rats à la cave, classique. La quête numéro 1,
c'est la numéro 1.
Et en tout cas pour répondre à ce que tu disais Vic, c'est la théorie que j'appellerais Sylvain Tesson, qui est que dans la vraie vie tu dors dans des hôtels 5 étoiles en Russie, je sais pas quoi et tout, mais quand tu sors un bouquin qui parle de ton périple à travers la toundra, tu dis que t'as dormi dans des tentes et des machins et tout. Enfin, blague à part, en tout cas je pense que tu deviens vraiment bon les enfants, hein, ça tu fais. Blague à part, je pense que on n'est pas aventurier, tu le deviens à travers les yeux des autres quoi. Mais c'est assez intéressant effectivement comme.
Et si du coup au final si on veut aller plus loin, est-ce que t'es vraiment un aventurier si tu le racontes pas?
Ouais,
au final,
Et est-ce que t'es pas un aventurier?
Est-ce qu'un arbre qui tombe dans une forêt où il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit?
C'est ça.
Est-ce qu'il tombe?
Personne ne vous entendra crier dans l'espace.
Là, on est dans les cours de philo de première.
C'est ça.
Mais elle.
J'ai pas filé en première.
Bon bac à tous.
J'ai dit première au pif. C'est pas en première, c'est en terminale.
Moi, j'en ai eu en première. Moi,
t'as fait L. Toi, t'as fait L, toi.
Ouais. Et t'as fait toute ta terminale en latin. Et ça va.
Non, c'est pour
le latin. Latin et sa langue maternelle, elle a pas rien fait savoir.
Et est-ce que le fait aussi de non seulement si tu les racontes pas, es-tu un aventurier? Et si tu racontes une aventure sans l'avoir vécue, n'es-tu pas non plus un aventurier? Typiquement, le Nantais là, qui a écrit plein de bouquins d'aventure. Comment il s'appelle?
Jules Verne. Le Nantais. Dit comme ça, l'autre con là, le Nantais, mais c'est Jules Verne. Non, mais
sans avoir bougé de Nantes, bah voilà, c'était il a cette approche de l'aventure, il a contribué à faire qu'aujourd'hui on appelle aventure ce genre de
périple. C'est ce
qu'on
tous, hein, aujourd'hui. Hein.
Bah, si je vais un peu plus loin, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes des aventuriers, nous, auteurs de chroniques
de 70 épisodes d'Alien
Express? Sacrés aventuriers.
Avant tout, une aventure humaine. Petit cœur coréen avec les doigts.
Tu vois comment on essaie de combler pour que ta pièce que tu as posée sur la table
c'est gentil.
Que ce soit l'épisode le plus long, on essaye.
On va pas trop combler non plus parce qu'on est juste devant la chambre de ma fille qu'on va devoir coucher dans 40 minutes. Alors
ça va, 40 minutes, on a largement le temps de faire
j'ai une très longue recommandation.
Ah.
Bon, et ben on y va.
Qui se la pète.
Non.
T'as pas Marocco.
Non, mais c'était autre chose à dire, prenons le temps. De toute façon, ça devient le chaos ici. Vraiment.
Non, j'avais rien à dire, si c'était que j'avais très apprécié cette chronique.
Merci.
Qui conclut très bien cet épisode et qui réagit très bien
à cette chronique, saison.
Cette saison.
Moi, elle me laisse un petit goût d'amertume parce que j'aurais peut-être aimé l'écrire d'une autre façon, etc. Et tout. Donc peut-être que vous la verrez sur la cinquième saison, c'est possible.
Mais c'est un chercheur qui me donne envie de partir à l'aventure, d'aller voir ses enfants et de
leur éclater la gueule avec un marteau piqueur.
Tu fais un peu un mélange de tout en lui expliquant les règles de la vie. Bref, on va passer tout de suite aux recommandations. C'est un nom, les recommandations. Ça s'appelle comment, Florian?
Le masque et la pipe.
Le masque et la pipe d'Alien et les garçons.
Oui. Le masque, la pipe. Le masque et la pipe.
Merci Florian qui joue le piano qu'on a déplacé directement sur le balcon pour pouvoir quand même avoir
piano à queue, un gros piano à queue.
Gros piano à queue, Florian à queue aussi d'ailleurs, tout est à queue ici. C'est terrible parce que moi je suis en train de mater des vidéos YouTube en même temps. Parce que je vais lui recommander des vidéos.
Je suis en train de fumer une clope.
Vraiment, fin de saison, on est déjà en vacances. Vous savez, à la fin de l'année scolaire, le dernier cours, en général, on fait un goûter. On part en goûter, on a des Twix glacés dans le frigo, des Mr. Freeze Lidl.
Du Liptonic. Voilà, je le redis, on l'a déjà dit en intro, mais du Liptonic, c'est quand même pas courant.
Non.
Et c'est bon, le Liptonic, pourtant.
Il faudrait que je regoûte.
C'est ta recommandation.
Tu me demandes de le faire, il faudrait que je regoute, Florian.
Je veux pas te commander, mais si je pouvais regoûter le Liptonic.
Ouais, tu regoûteras après.
Très bien.
Parce que là, en plus, je suis assis par terre sur un pouf, c'est plus chiant pour moi de me lever que pour toi.
Bon, je suis assis dans une chaise longue. C'est vachement compliqué.
Ah, dur à la vie, quoi.
Ah, putain. Est-ce que Vic, tu nous raconterais pas? Parce que là, on a eu le temps de finir le générique et
ouais,
tout.
Vic, alors, on a fini le générique. Moi, je vais vous recommander quelque chose de très simple.
On va remettre, si vous voulez.
Non, ça devrait aller.
Attendez, générique. Tu veux le rejouer, tu veux dire, Florent?
Oui, bien sûr.
Tu veux dire que c'est enregistré? Vas-y, rejoue-le.
Oh, il est bon. Alors, excellent. Pendant que Florian nous fait une démonstration de ses multiples talents,
il joue avec les pieds,
de son gros piano à queue.
Vu qu'il fume une clope, il fume avec les pieds. Enfin, il fume avec les pieds. Tu veux faire qu'on dise aux gens que tu fumes avec les pieds, que tu es Clément?
Oui, je pense.
Pardon. Non, mais alors, l'été arrivant tout à fait bientôt, c'est-à-dire après-demain ou quelque chose comme ça, les vêtements se raccourcissant sur les jambes des êtres dans les rues, la peau se découvrant, les
il va recommander les shorts, mec.
Voilà, les exactement, vous voyez quoi, enfin la chaleur qui remonte. Je vous recommande le vélo.
Ah, c'est ça la recommandation. J'ai cru que tu allais me parler comme recommandation d'un certain type de vélo en particulier d'ailleurs.
Absolument, car je suis je crois que j'avais déjà parlé, alors pas dans le cadre d'une recommandation, mais à un moment donné dans Hélène et les garçons, de mon vélo pliant qui était
tout à fait
absolument
qui est hollandais, non, c'est ça,
ce qui est anglais.
Ah, donc, pour moi.
Ouais. Très pratique pour le travail.
Bonjour, je suis le vélo de Bic.
Ouais, c'est ça, mais il est très pince sans rire en plus. C'est un type de vélo qui s'appelle le vélo gravel.
Ah oui.
Ça vous dit quelque chose? Gravier en anglais.
Gravel bike.
Gravel bike.
Il s'appelle gravel le vélo.
Voilà, et c'est un vélo qui est l'hybridation un petit peu d'un vélo de route et d'un vélo tout-terrain. C'est un vélo à moteur. Non, et d'un vélo tout-terrain et un vélo de route. Donc ça ressemble grosso modo à un vélo de route, mais avec, tu n'es pas obligé de rester sur la route. et ça permet de se balader, ça permet de enfin, je dirais pas de voyager, parce que pour l'instant, j'ai jamais dépassé 60 km, mais déjà,
alors que c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal.
Je me suis fait une sortie de 60 km l'autre jour, voilà. Voilà,
et du coup, éventuellement. Tu 60 km dans la merde, dans la boue, dans les cailloux, quoi.
Bah, tu peux faire du chemin, de la route, okay. tu peux un petit peu varier les plaisirs, ouais. Et bref, je vais pas dérouler là-dessus, mais je suis tombé un petit peu là-dedans, même maintenant, je passe mes nuits à regarder toute la littérature YouTube et autres sites internet là-dessus. C'est assez chronophage, mais je suis complètement tombé dedans. Donc, à mon avis, l'année prochaine, ce sera un épisode sur deux pour moi. Parce que là, on est dimanche, on enregistre un dimanche. Là, j'ai dû pas faire de vélo pour venir.
Mais moi, j'étais persuadé que t'allais venir avec ton vélo, justement.
Mais tu sais que j'ai hésité.
Gravel bike, il y a
franchement,
il y a
de la.
Ce matin, j'aurais pas eu ce que j'avais à faire ce matin que j'aurais fait ça. Non, c'est trop bien.
Il y a un peu de distance quand même.
Pour le coup, et encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails parce que cette recommandation n'étant pas du tout construite, ce serait inintéressant à écouter. Néanmoins, je vais vous donner mon objectif, le gravel, justement, qui se fait par exemple critiquer parce que les gens disent oui, c'est une réinvention, ça s'appelait la randonneuse, tu vois, les vélos avec lesquels on voyageait un petit peu avant et qui étaient déjà capables de faire de la route et du tout-terrain, la randonneuse. Ouais. Bon, bref, on va pas rentrer dans ces débats, mais néanmoins, mon objectif, je peux le donner, c'est de faire ce qu'on a de la grande distance. Et j'aimerais bien. Vous aviez fait ça en l'occurrence, vous êtes allé, je sais plus où.
Ça s'appelait le Club Pédale.
Ça s'appelait le Club Pédale.
Le Club Pédale, effectivement.
Après, c'était déjà Club quelque chose. On est allé à Chartres avec en deux fois. Parce qu'on a du coup.
Ah on a eu ça faisait combien de kilomètres?
Ça faisait, faisait 160, je crois.
Ouais.
Et on avait ce qui était dur surtout, c'est que c'était qu'on avait nos tentes et tout sur le dos, quoi. Donc du coup, on était en charge.
Et vous êtes parti du centre de Paris et donc vous êtes tapé la montée de Saint-Cloud.
Ouais, on s'est tapé la montée de
Saint-Cloud. Elle doit être un peu casse-pattes. Mais ça fait partir en l'occurrence avec tentes et nourriture et matériel et échange. Ça fait partie de ça qu'on appelle donc la longue distance et encore après l'ultra distance. Et donc tu as des compétitions dans lesquelles le but n'est pas tant de finir premier à part pour la performance en tout cas, à part pour certains, ceux qui sont vraiment là-dedans.
Mais d'avoir le cas de finir.
Mais de finir. Et donc, tu as des 200, 300, 500, 1000 kilomètres qui se passent.
En plusieurs
jours.
Un petit
peu partout dans le monde, en plusieurs jours, bien sûr.
D'accord.
Et après, plus tu es bon, moins tu fais de jour. Mais du coup, tu peux rouler, tu t'organises comme tu veux. Tu peux rouler de nuit.
Ah, c'est comme du Ironman, mais à vélo, quoi.
Mais à vélo, exactement. Et donc, pour l'instant, encore une fois, ma sortie la plus grande étant à 60 kilomètres autour de chez moi.
Ah, c'est pas mal.
Mais voilà,
surtout si tu passes un peu dans la merde et dans la boue, un peu. Parce que c'est hyper fatigant.
Mais surtout, tu vois, encore hier. En plus c'était canicule hier, mais j'avais envie d'aller en faire. Alors je me suis acheté, vous me verriez, vous rigoleriez un petit peu acheté tout le barda
est-ce qu'il est rembourré ton petit collant pour le cucu?
Mais en fait, alors le collant rembourré pour le cucu, effectivement, qu'on appelle donc un cuissard, et le rembourrage s'appelant une peau de chamois. C'est en fait, tu te rends compte que c'est indispensable.
Bah ouais, surtout quand tu veux rouler pas mal, hein, ouais. Et qu'il y a des bosses et compagnie.
Et puis c'est pas que l'entretenir, c'est cet endroit du corps, parce que surtout quand tu fais déjà des longues distances.
Le cuisse. Ah non, l'entrejambe
entre les coucougnes et l'anus, comment ça s'appelle?
Scrotum.
Le scrotum.
Je sais pas, mais t'as des passages un petit peu de sang ou de je ne sais quoi là-dedans qu'il faut faire attention, ouais, notamment la forme des selles aussi, elles sont travaillées pour. Enfin bon, bref. C'est tout un monde, c'est tout
un univers. Des selles de vélo, hein.
C'est tout un
univers. Oui, t'es parti sur autre chose, moi aussi.
Ah oui, oula, mais non.
J'ai cru que t'allais me dire que t'analysais la forme de tes selles pour savoir quel collant tu devais utiliser le lendemain.
Aujourd'hui, il faut que je parle vers le sud, c'est ça. Non, mais bon, bref, du coup, je pourrais en parler longuement, mais étant donné la déstructuration du propos, je vais pas le faire. Mais je vous recommande, en tout cas, même si c'est pas l'idée de vous acheter un gravel bike ou un autre vélo, mais de faire du vélo parce que ça détend, c'est sympa, il y a du vent dans les cheveux, on voit plein de paysages. Et ce que je voulais dire, et par quoi je vais finir, c'est qu'hier, en sortant pour ma sortie, donc j'ai fait 40, parce que bon, il faisait 40 degrés, donc j'avais pas énormément de temps. Mais
un kilomètre par degré, c'est pas mal. Hein.
J'ai croisé des vaches, croisé des champs avec des ruches dans le fond. J'ai soulevé mon vélo pour passer au-dessus de Tron et plein de petites choses, donc dans l'ouest parisien.
C'est parce que pour nous on te connaît, t'es loin d'être parisien dans l'âme, mais pour nos auditeurs qui vivent à la campagne, ils t'entendent dire j'ai croisé des vaches et je recommande le vélo, ils doivent se dire parisien.
Non, mais au rang, je vous sais bien qu'on a pour voisin une tribu de vaches fort sympathique. Néanmoins, effectivement, c'était dans le cadre de l'idée d'être à Paris, quoi.
Ouais, tout
et
à
tu
fait.
T'éloignes très vite et tu croises vite des voilà.
Mais d'ailleurs, donc, tu parles du ranch, est-ce que ta longue distance, ça pourrait pas être Paris ranch?
Ça va être un entraînement de cet été.
Ah bah de ouf.
C'est ça, franchement, c'est jouable.
Absolument. Absolument. Et,
ça fait combien de
alors notamment, alors ça fait 282 km.
Oh,
et ça va être très intéressant entre Paris et le ranch. Comme ça, vous allez pouvoir. Je vous donne un indice si vraiment vous êtes des hardcore fans.
Moi, je peux donner une étape déjà.
Oui, effectivement, mais qui vous donne une idée de où se peut se trouver le ranch. Le ranch se trouve sur un itinéraire de vélo qui s'appelle la Vélocénie.
Ah oui, j'ai vu.
Et qui relie Roscoff. Roscoff est une ville qui est située en Bretagne, au nord de la Bretagne, sur la côte nord de la Bretagne, à Kiev, en Ukraine. Et en fait, ça fait, je sais plus, 3 ou 4 000 kilomètres.
N'allez pas à Kiev.
Non, en ce moment, il faut mieux s'arrêter avant.
Allez plutôt en Bretagne.
Oui, il faut aller du côté plutôt, aller à l'ouest. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein d'itinéraires vélo comme ça qui traversent un petit peu.
Elle aussi, elle est très connue, elle passe même par le Mont-Saint-Michel, je crois. Pas loin.
Effectivement,
pas dedans, mais voilà. Ouais. Pour des raisons évidentes, il y a de l'eau autour la plupart du temps. Mais effectivement.
Bon, attends, un chemin quand même.
Exactement. Donc oui, c'est prévu.
Moi, je trouve que il fallait dans le paysage de l'audio diffusion, de la balado diffusion, il fallait un podcast SF où on recommande le vélo à la fin. Il le fallait. On avait besoin de ça. On l'a.
Voilà. Je recommande le gravel.
Le gravel bike.
Voilà. Exactement.
Merci beaucoup. Mais le gravel bike est un peu plus SF que le vélo.
Exactement.
Et c'est pour ça.
Bah, un peu plus aventure en tout cas quoi.
C'est aventure. C'est aventure et grande expérience plein air quoi. Merci Vic pour ta recommandation improbable, mais qui avait le mérite d'être convaincante.
Moi j'adore ça, moi je suis pressé que tu en fasses. je suis pas pressé d'en faire moi, mais je suis pressé que tu en fasses et que tu documentes tes voyages.
Accessoirement, si les auditeurs font également du vélo, on peut se retrouver sur Strava. parce qu'en ce moment j'ai 9 abonnés. Hein.
Ah, c'est beaucoup déjà.
C'est mon frère et son copain.
T'es sûr de vouloir donner aux auditeurs tes itinéraires, sachant que du coup ils pourront retrouver potentiellement où t'habites.
Ah de ouf, ils vont retrouver, c'est sûr. Ah, c'est il y a des choses précieuses chez Vic.
Il y a effectivement
un chien.
Il y a le dragon.
Peut-être. Ouais.
C'est vrai. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, envoyez-nous des messages.
Un DM.
Voilà.
C'est moi qui vais devoir faire le relais encore. Et toi, tu vas mettre 15 points à ajouter les gens. Ils vont me dire, mais il fait quoi, Vic? Ouais, bah, excuse-moi, il est en train de faire. Bon, bref.
Bon, recommandez-moi des choses, vous.
Florian, lâche le piano et on t'écoute.
Et alors, qu'est-ce que je peux vous recommander? Moi, ce que je vais vous recommander aujourd'hui, alors, sachez que c'était pas vraiment une recommandation, c'est surtout une assignation de recommandation. C'est une recommandation en duo avec Thomas. Je vais vous recommander Disco Diffusion.
Du coup, je fais le refrain et tu fais les couplets?
Ouais, vas-y.
Non, je rigole, tu fais tout.
Disco Diffusion, qu'est-ce que c'est? Disco Diffusion, ce n'est pas vraiment une intelligence artificielle, c'est plutôt une application web développé en Python qui reprend un modèle d'intelligence artificielle et qui permet de créer des images à partir d'une proposition textuelle.
Tout à fait.
Donc dit comme alors voilà. Alors maintenant expliquez-nous ce que c'est.
Non mais surtout à quoi ça sert.
À quoi ça sert? Ça sert à créer moult paysages, moult représentations graphiques d'un texte que tu écris. Par exemple, si tu écris vaisseau abandonné dans un paysage printanier. Et ben il va te, selon le style de tel ou tel artiste, il va te recréer de toutes pièces en partant de rien et en reprenant le style et en reprenant des images trouvées sur internet, etc. Un paysage que tu auras défini.
Est-ce que tu vas pouvoir ajouter, tu veux dire que tu veux des trees?
Exactement. Si tu veux une couleur dominante, tu peux. Si tu veux, tu peux vraiment tout rajouter en fait dans ta proposition textuelle et du coup retrouver ça dans ton
c'est magique.
Ou pas d'ailleurs dans ton image finale. Parce que c'est ça qui est super intéressant avec cet outil. C'est que il y a un vrai côté découverte en fait de l'image. C'est que en fonction de ce que tu vas taper, en fonction de comment tu vas le taper,
ça met un petit peu de temps à apparaître les images.
Ça met moi par exemple avec les réglages que j'ai aujourd'hui, ça prend chaque image prend par exemple une heure.
Voilà.
Donc en moyenne c'est plutôt genre 20 minutes quand tu débutes et que tu gardes les réglages de base. Mais 20 minutes par image, il y a quand même ce côté un petit peu sensation de découverte des images que tu as créées.
Je trouve que c'est une sensation d'ouverture de booster magic, de carte magique ou de Pokémon. Tu fais qu'est-ce que je vais avoir là? Oh putain, ça m'a sorti ça trop bien.
Sauf que t'es un peu contribué à faire ce qu'il y avait dedans.
C'est ça qui est ouf.
Je suis moins tombé dedans que vous, je connais un petit peu le principe, mais est-ce que ce serait simplifié, serait-ce dur à dire, juste de simplifier en disant que c'est en quelque sorte du dessin assisté par IA?
Bah, pour simplifier. C'est un peu ça, mais...
Oui, sauf que c'est pas assisté, c'est clairement... tu es plutôt le réalisateur...
Le commanditaire.
Le commanditaire d'un artiste virtuel.
D'accord.
Mais t'es aussi un petit peu le maître d'orchestre. Parce que si tu dis j'aimerais un paysage nordique, bah, il va te créer un paysage nordique. C'est une intelligence artificielle, elle est intelligente, mais un peu con à la fois en même temps. C'est le propre d'une intelligence artificielle.
Donc elle va te faire un truc blanc avec un arbre au milieu.
Par exemple.
Et après tu fais
comment? Après tu dis ah bah non, j'aimerais un paysage désertique dans le nord de l'Europe. Et donc du coup, il va te rajouter des détails ou bien une ambiance un peu différente. Mais ça te convient toujours pas. Donc t'aimerais un arbre seul, accompagné d'une pierre au milieu d'un paysage désertique avec le style. Et donc au fur et à mesure,
si tu veux enlever l'arbre, tu peux enlever l'arbre.
Est-ce que vous pouvez partir d'un dessin que vous avez fait? Donc admettons, t'as ton arbre au milieu d'un paysage enneigé. Est-ce que tu peux dire, je veux garder le paysage, mais je voudrais remplacer l'arbre
par
un immeuble?
Tout à fait.
Ouais. Ah, ça garde le truc.
Tout à fait, okay. Ouais. Et tu gardes pas exactement, tu gardes tous les mêmes réglages, tu peux pas repartir exactement de ton dessin. Ah, il va te recréer des dessins.
Et alors, maintenant, mais deuxième question.
C'est aussi la magie du truc, c'est que chaque image est complètement random et recréer toute pièce avec la même proposition textuelle, t'auras pas la même image.
C'était ma deuxième question. Est-ce que si on demande la même chose, on a la même chose?
Non.
Et c'est ça, c'est la même idée. Mais ça qui est vachement bien, c'est que. Vas-y, Florian.
Parce que du coup, ça va changer la compo. Ça va changer, par exemple, si tu demandes un vaisseau spatial dans une plaine désertique, la forme du vaisseau sera différente, etc., etc. Mais par contre, tu peux effectivement reprendre des images que tu as créées, les injecter dans l'intelligence artificielle, il repart de cette base-là pour recréer une nouvelle image. Tu vois, donc il y a quand même un moyen.
Tu peux la fournir un peu aussi en image au-delà du texte.
Exactement. Donc il y a vraiment un.
T'as fait du.
Thomas nous montre ses réalisations
du coup. C'est le même texte. C'est le gars qui a fait Sight.
Non,
si, je suis parti artiste là, tu vois.
Ouais, moi j'allais dire, ça me fait penser à Simon, le mec qui a écrit, qui a fait Tales from the Loop.
Oui, il y a même ambiance en vrai.
Ah, encore plus, effectivement.
Effectivement, tu peux avec le même texte, tu vas avoir des choses complètement différentes, mais à la fois c'est cohérent, tu vois. C'est un robot village, un village de robots, tu vois.
C'est un village de robots dans un monde de hobbits, enfin des robots.
Dans un monde de robots sur une planète. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, il faut laisser tourner ton truc pendant toute une nuit, et tu vas avoir 15 images, 20 images, 30 images le lendemain, et là, tu choisis les meilleures.
Je sais qu'on le fait jamais, mais ça serait bien de le faire cette fois, mais.
Non, mais il faut absolument mettre le lien, bien sûr.
Non, mais ça mériterait sur notre Twitter, de mettre des images.
Notre Twitter ? Excuse-moi, maman. T'as dit Twitter, maman.
Je dis Twitter. Ouais. Et ben, de mettre des images de disco-diffusion.
Bon, on mettra quelques créations de Florian sur le truc. Ouais. Très bien.
Et alors, pourquoi ça s'appelle disco-diffusion ?
Aucune idée.
Ce qu'il faut peut-être préciser, Florian, c'est que c'est une app, en fait, c'est un code Python dans Google Colab, qui s'exécute dans Google Colab, qui est un truc pour exécuter les textes, c'est pas un truc à télécharger, donc ça peut être un peu abrupt pour les gens qui vont vouloir essayer là. Mais en fait, il y a des vidéos de 6 minutes ou 5 minutes de tuto qui t'expliquent comment faire, c'est extrêmement simple.
C'est extrêmement simple à découvrir, c'est extrêmement dur à maîtriser.
C'est ça.
Les premières images sont souvent vraiment dégueulasses, quoi. Et genre,
il faut une partie pour s'amuser, mais 1000. Pour le maîtriser.
Exactement. Et moi, ma toute première proposition textuelle, c'était un Pokémon Cyberpunk. Tu vois, juste ça. Et ça m'a sorti des trucs, mais c'est issu d'un cerveau malade, vraiment. Quoi. C'est très étrange.
Ça marche.
Exactement.
Merci, Florian.
Ben, de rien.
Et donc, vos œuvres à retrouver bientôt sur le Twitter de.
En vente, en NFT.
Et au MoMA aussi.
Au MoMA.
Je vais vous parler de. À mon tour de parler, c'est ça. Je vais vous parler de Backroom. Backrooms.
C'est-à-dire,
je vais te laisser. Je te laisse continuer. Je vais pas.
Je vais vous parler de Backrooms. Vous savez, moi, j'aime bien les gens et les podcasts qui transmettent des informations, des choses un peu.
Que des informations.
Attendez, calmez-vous. Non, mais les choses cool de ce monde, en fait, tous les trucs qu'on aurait tendance à rater, etc., etc. Donc aujourd'hui soir,
il y a une situation gênante de voitures qui se croisent, laquelle va craquer. Excusez-moi, Thomas, je suis obligé de couper. Priorité au direct.
Ouais, alors que la Nissan force le passage.
Et que la Skoda fait marche arrière. On le sait
que du coup que les Skoda se font victimiser par les Nissan. On le sait dorénavant. N'achetez pas de Skoda si vous voulez croiser une Nissan.
Ça utilise des
noms d'oiseaux. On dirait qu'elles sont en train de se renifler les uns les autres et qu'elles vont s'accoupler.
La Skoda, elle a baissé les phares.
Très bien, merci Thomas, vous pouvez reprendre votre recommandation.
Je vais vous parler de Backroom.
Alors oui.
Les Backroom, parce que c'est pas ce que vous croyez évidemment, mais c'est drôle de commencer comme ça parce que ça vous appâte en disant mais de quoi il va nous parler, il allait sucer des queues quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Oui, je l'ai fait, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est ma vie privée.
C'était juste pour tester.
C'était juste pour essayer une fois. Donc ce truc-là, dont j'en ai entendu, je suis très déçu parce que j'en ai entendu parler il y a genre le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, de quand on a enregistré l'épisode précédent. Et j'aurais voulu vous en parler tout de suite parce que maintenant c'est un peu moins cool parce que Le Monde a fait un article, beaucoup de gens en ont parlé. Il y a même un article Wikipédia en français maintenant.
Ah là
donc
là
c'est
là
beaucoup
là
moins hype.
C'est super, ça me déçoit un
c'est
peu.
C'est le summum du mainstream.
Alors que moi je recommande le vélo.
Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est, donc je vais vous parler des backrooms. Vous connaissez les espaces liminaux? On a déjà parlé de liminal space.
Pas plus tard que dans cet épisode.
Et bien il y a un gars qui s'appelle Canel Pixel, qui est un vidéaste de 16 ans. Kane Pixel, qui est un vidéaste de 16 ans, il est parti d'une image liminale, l'une des plus connues, qui est une sorte de bureau, etc., peu importe.
Ah, j'ai vu passer ça.
Tu l'as vu passer, je pense. Ouais. Et il a décidé de faire un petit court-métrage autour de ça, qui s'appelle Backrooms. Je vous le mets là, comme ça vous regardez pendant ce temps. Donc c'est un found footage, et comme genre le mec qui fait semblant de filmer un peu un court métrage. Et à un moment donné, le caméraman qui tient la caméra va no-clipper, comme on dit dans. Il va y avoir un glitch, comme on dit dans le monde du jeu vidéo, il va passer à travers une texture qu'il n'aurait pas dû passer, tu vois, comme par magie. Et il va tomber dans les backrooms. les backrooms, c'est.
Non. Ils ont vraiment des gueules d'adolescents.
Mais ils ont, c'est des vrais ados. Ah oui, après, je pense qu'ils ont peut-être joué sur le truc. Tu vois, et là, Inoclip. Inoclip, il passe à travers la texture et boum, il tombe dans les backrooms. Quelque part ailleurs, et qui sont que des espaces des liminal space. J'ai pas réussi à le dire en français, je le dis en anglais.
On est très dans un peu du SCP aussi.
Et ça, ouais, complètement. Non, et je vais y revenir après sur les SCP. Et en fait, donc du coup, le gars, il va filmer en phone footage et il va parler. Je sais pas si on peut mettre un peu de son.
Ça
tête.
Me rappelle la Maison des Feuilles aussi.
Et il y a un beau, carrément, la Maison des Feuilles. Et il va se balader dedans et on sait pas, c'est hyper inquiétant. C'est des, là, on peut décrire, hein, c'est que c'est de la moquette, c'est des. C'est que des bureaux un peu vides, donc c'est l'espace liminaux, hein, comme je le disais tout à l'heure.
En fait, c'est comme si la COGIP venait de déménager et que tu te retrouvais dans ces locaux sans qu'on t'ait prévenu qu'ils avaient déménagé. Tu
vois, et en vérité, c'est à la fois fascinant et terrifiant. Tu le vois évoluer dedans, à un moment donné, il va se passer des choses un peu bizarres, etc. etc. Le truc, c'est sorti il y a 5 mois. Le truc a cartonné de ouf, il en a fait d'autres. Et maintenant, à la manière de la fondation SCP, il y a plein de gens qui ont commencé à eux-mêmes à faire leurs propres vidéos. Et en fait, c'est devenu un truc, les backrooms, maintenant. Il y a plein de gens qui font leurs propres vidéos, avec, tu vois, des trucs un peu chelous comme ça.
Tu veux dire que le mec à 16 ans, il a réussi vraiment, ouais, lui, à lancer un truc, ouais, mondial. Ouf. Ce qu'on va faire, nous aussi, bientôt.
Attends, tu t'imagines pas jusqu'à quel point, parce qu'en gros, ça, c'est le level 0 que tu vois, là, de backroom. Mais en fait, du coup, il y a des levels 1, 2, 3 ou 4, parce que chaque backroom est en fait relié à d'autres backrooms en couche. Ah. Et un peu de manière... Une pub, une publicité.
Perfect.
Ça, c'est pas Ken Pixel qui fait ça.
Mais t'as pas de chat pourtant, toi?
Ouais, t'as
non,
pas de
j'ai
chat.
Pas de
chat. T'es ciblé bizarrement.
Non, mais
ciblé,
dans ma chronique, j'ai parlé de croquettes à la viande.
Tu manges de la nourriture.
Moi, j'ai mangé la nourriture pour chat. En réalité, je mange des chats, donc j'utilise la nourriture pour les appâter. Enfin, c'est une histoire. Et ce que j'essaie de dire, c'est que du coup, il y a différents niveaux, parce que chaque moins 1, moins 2, moins 3 est relié aux autres.
Dans une backroom de backroom.
Non, mais ce que je veux dire, surtout, c'est comme dans la fondation SCP, les gens respectent. C'est-à-dire qu'au niveau moins 8, ils savent qu'il y a ça. Les gens vont filmer que ça. Mais un peu à leur manière, tu vois.
Et
les
parce gens... que la backroom, ça c'est forcément le niveau 1, t'es forcément là-dedans. Là,
c'est le premier niveau en fait, la COGIP. Après, t'as d'autres niveaux.
Tu peux pas tomber dans d'autres backrooms de si, niveau 1.
Non. Toujours comme ça. Et en fait, tu vas pouvoir ensuite descendre dans d'autres backrooms, mais il faut d'abord passer par celle-ci. Mais peu importe, les gens ils font pas chier. Ils filment juste 30 secondes de la backroom numéro 184, qui est le 180e niveau en dessous, qui répond à tel lore, qui est validé par la communauté, et les gens ils cassent pas le truc, ils respectent, comme pour la fondation SCP, et c'est fascinant.
Mais sauf qu'à l'inverse de la fondation SCP, c'est un objet qui est purement vidéo.
Exactement, et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en gros c'est des vidéos, donc du coup c'est un potentiel infini de voyage, et c'est un vrai rabbit hole. Il faut comprendre que tout ça c'est de la 3D en réalité. Mais c'est vraiment bien fait, hein, comme 3D. C'est la 3D, vu qu'ils mettent un filtre un peu VHS.
VHS.
Un filtre VHS. Est un film VHS.
Mais vraiment, alors on va pas revenir là-dessus, parce que j'ai déjà recommandé, on en parle tout le temps et vous l'avez pas lu, donc ça sert à rien. Mais pour le coup, c'est la Maison des Feuilles, il y a vraiment ça. Il y a des pièces vidéo qui sont analysées par des gens et qui ressemblent vraiment un petit peu à ça, puisque c'est dans des labyrinthes situés sous la maison.
Ah, il y a du boulot quand même.
Je pense que.
Ça, c'est une image très connue d'image de Liminal Space. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, celle-ci, c'est un grand classique. On le voit tout le temps. Et il l'a utilisé dans sa vidéo en fait. Et oui, il réutilise la Maison des Feuilles à des moments. Enfin, il réutilise pas ça, mais il y a un des niveaux où c'est en extérieur et tu rentres dans une maison et quand tu arrives dans la maison, elle est immense. Il y a ça, mais ça crise. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est
par
quoi
contre,
les backrooms.
Faut maîtriser la 3D du coup.
Ouais, je pense que c'est un Unreal Engine. Et c'est franchement c'est top. Tu mets ça sur la télé ou le soir machin et tout, tu regardes ça, c'est des vidéos.
C'est un petit peu flippant quand même.
Ouais, mais c'est l'intérêt, c'est que ça fait peur, c'est trop bien.
C'est oppressant de se mettre ça le soir.
Ouais, je me mets ça le soir sur ma télé avec un petit brandy,
un petit plateau apéro.
Je comprenais bien qu'il y a des gens qui recherchent ça. Ouais. Voilà. Moi je mange des chats par exemple, donc c'est chacun son truc. Et non, fantastique. C'est ma recommandation. Il y a plein de vidéos. Il y a tout un lore. Maintenant il y a des entreprises, comment dire, fictives qui sont créées pour aller explorer ça. Et il y a des colonies dedans. Il y a tout un lore.
La communauté, deux questions. Un, c'est que de la 3D, tu peux pas faire ça vraiment dans un lieu abandonné pour.
C'est plutôt de la 3D, mais pas que.
Il y a pas que, d'accord.
Mais ça, il faut apporter une pierre en plus, quoi.
C'est compliqué.
Ouais, mais pour avoir franchement, si t'arrives à créer de.
Pour arriver à un truc vraiment liminal, c'est quoi déjà le mot? Liminal, c'est vraiment compliqué, quoi.
Et la deuxième question, c'est tu connais la.
Ça, c'est l'étage 7, par exemple, c'est celui des piscines. Pardon, vas-y, pose ta question pour l'instant, parce que les auditeurs vont pas.
Non, c'est vrai. Tu connais le degré d'implication de, je me rappelle plus son nom, mais celui qui a créé ce court-métrage à la base?
Bah, il a continué à créer des vidéos. Il a créé une des entreprises qui existe, parce qu'il y a une des entreprises fictives qui analyse ses backrooms. Et après, derrière lui, non. Après, c'est la communauté qui récupère. Il fait plus rien. Enfin, il fait plus rien. C'est pas lui qui donne des ordres.
D'accord. Non, donc. Okay.
Il y a pourtant un sacré paquet de pognon à faire.
Mais vous leur entendez ici en premier, il va y avoir un film, c'est sûr. comme il y a eu un film sur Slenderman, comme il y a eu un film sur tout, il y a bah, un film, c'est sûr.
C'était pas une grande réussite.
Vous savez, ou c'est pas un film, ça va être repris dans les jeux vidéo, c'est sûr. C'est ouais, c'est enfin, voilà. C'était ma recommandation.
Ça me fait penser à un jeu vidéo de, vous savez comment s'appelle ces deux séries là où tu joues un employé de bureau et c'est une voix off qui te guide.
Mais c'est ça. Stanley Parable.
Mais Stanley Parable, il joue voilà, complètement, c'est ouais, complètement linéaire. Voilà. Il joue complètement sur ça.
Et il y a un autre jeu de ce mec-là.
Il y a, je sais pas si c'est de ce mec-là et tout, mais justement qui joue sur les proportions, les cadrages, etc. Et que du coup une boule.
Beginner's Guide.
Comment?
Beginner's Guide. Le jeu. C'est Beginner's Guide. Pardon,
ouais, je sais pas si c'est ce jeu-là du coup, mais il y a un jeu effectivement vidéo qui joue sur les proportions, la perception et qui genre si tu rapproches un objet
de la
caméra et que tu le lâches, du coup il a pris la taille
C'est cool. Je pense que c'est pas ça, mais c'est cool.
Bref, vous avez compris. Cool. Non, ouais. C'est normal.
Puissance 4.
Mais si je le retrouve, je vous le mettrai en lien. On ça n'arrivera jamais.
On va se mettre une petite musique.
Ça
va se dire au revoir.
Alors, est-ce que t'as ton épisode le plus long là? T'es content? C'est bon?
Je pense que c'est pas mal. On a au moins 10 minutes. 10 minutes par débat, donc ça nous fait 30 minutes. Là, on approche des 30 minutes de débat.
Non.
De culture. On a 30 minutes de.
On est peut-être un peu limite, mais au pire, on laissera 20 minutes de blanc à la fin.
Ouais, autant.
C'est ça. Et on mettra un mot à un moment donné, juste pour voir les.
Juste Vic. Ou juste Vic qui.
Qui parle de vélo.
C'est ça.
Alors, ok. Attention, on va faire un hors-série vélo. Tu vas parler
d'un reportage.
Franchement, c'est.
Mais surtout qu'on a vu dans tes yeux que t'avais les. Tu vois, alors.
Mais c'est un truc de
mes recommandations, parlons de la tienne. On a vu dans tes yeux que t'étais plus excité que quand tu parles de SF, de tout ça.
Mais c'est fou, je pensais pas. En plus, sportif, vous savez comme je suis sportif. Je suis pas très sportif.
Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est étonnant.
C'est.
T'as le physique de Kurt Cobain juste en 93.
À peu près. Donc, pourtant, hein, comme quoi tout peut arriver.
Tout peut arriver. C'était en gros, c'était soit tirer avec un fusil dans la bouche, soit te mettre au vélo et
marteau-piqueur.
Très bien, un petit peu de musique, s'il vous plaît, post-producteur. Maintenant, on va dire aux éditeurs à dans longtemps, parce qu'on se revoit qu'en septembre. Peut-être on va sortir des épisodes spéciaux cet été si on a le temps, mais c'est compliqué avec nos
si
vies.
Vous envoyez de l'argent.
Florian uniquement. Voilà. Il a besoin d'argent en ce moment, Florian. Il a besoin de logement aussi. C'est le moment de faire un appel au Téléthon, le Florianton.
Ça se voit, il a plus qu'une chemise.
Il a plus qu'une chemise et elle pue.
Non, c'est pas vrai.
Il est très
j'en
beau.
J'en ai trois.
Je suis souvent quoi vous dire? Moi, je suis un peu ému de finir une saison 4. Voilà. Vivement la saison 5.
Franchement, ça va. Parce que je sais qu'on va se retrouver cet été. Je sais qu'il va y avoir des choses. Donc
mais surtout, on se retrouve demain, nous trois. On se retrouve demain matin, donc ça va aller.
J'ai pas trop envie.
Bah non, mais c'est
je l'apprécie
vie,
beaucoup pour toi.
Non, mais c'était bien. Moi, je trouve que c'est un bon épisode pour conclure la saison 4.
Ouais.
Et je propose
on a bien enregistré l'épisode.
J'espère, on verra.
On verra.
Bah, écoutez, si chers auditeurs, si vous l'écoutez, c'est que techniquement on a réussi. Ouais. Si vous l'écoutez pas, bon bah.
Si vous n'avez pas de nouvelles de nous, appelez la police.
On se dit bonnes vacances, chers auditeurs.
Bonnes vacances.
Pensez
à
vous hydrater et bisous.
Saison 5.
Septembre. Ouais. Saison 5.
Et pas de contrainte du coup.
Pas de contrainte. On sait même pas où on sera, pas de contrainte.
Bon, en tout cas, c'était chouette.
Ouais.
Allez, bisous.
Bisous.
On vous aime.
Bisous.
On vous aime. Sing me.